Il a survécu à deux tirs de Mohamed Merah. Il a fait sauter la porte de l'hyper cachère. Il a été présent lors des attentats du Bataclan. Ce soir, vous saurez tout sur les dessous du terrorisme avec le policier du Raid, Marc Vériotte. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous d'être sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, c'est la 50e depuis le 7 janvier que nous avons commencé cette nouvelle émission. C'est la 50e émission. Voilà, on l'a faite. Hein. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. 50 émissions à l'espace, même pas de 3 mois. On a vraiment bossé dur. Et pour le coup, vous êtes assez nombreux puisqu'on a gagné en tout, je crois, 45 000 abonnés en l'espace de 3 mois. Nous sommes quasiment 175 000. Donc voilà, pour cette 50e émission, on vous a préparé du gros, du très lourd et du très très lourd. Une forme d'exclu un peu géopolitique profonde puisqu'on reçoit un ancien grand policier du Raid, Marc Vériotte. Voilà, j'ai son bouquin, c'est un pavé, mais il se lit très facilement et franchement, je me suis régalé. Mais vraiment, je me suis régalé. J'ai lu ça très très vite. C'était tellement passionnant. Bonsoir, cher Marc. Comment ça va ?
Ça va très bien. Merci de l'invitation.
C'est l'homme aux mille vies, si je puis dire.
Bah, oui. Oui, j'ai commencé par du judo. J'ai été entraîneur et après, je suis rentré dans la police et au Raid. Et avec en faisant 20 ans dans la colonne d'assaut, forcément, il t'arrive des histoires.
Bah, ce que j'ai aimé, c'est que c'est aussi le livre, allez, faut le dire, je vais utiliser le mot, d'un héros, quoi. Et on a besoin de héros aujourd'hui.
Ah oui.
On a besoin un peu de rêver, quoi. Je veux dire, il n'y en a plus tellement des héros dans notre quotidien.
Bon, on revendique pas tellement cette appellation-là, parce que souvent, elle est un petit peu biaisée socialement, biaisée politiquement. Nous, on se concentre bien sur notre travail pour être le plus professionnel possible. On parlait tout à l'heure de la notion de courage. Bon, tout ça, moi, je me considère plus comme capable de me concentrer sur le travail pour ne pas laisser égarer les choses à droite, à gauche, pas rentrer sur les trains des émotions. C'est plus ça qui nous fait travailler proprement que de se dire « Allez, je risque la vie et je vais quand même y aller ». En fait, au cœur de l'action, on pense pas trop à ça. Si on pensait à ça, on se concentre sur le travail qu'il y a à faire parce qu'il est compliqué et on a besoin de 100% de nos capacités mentales pour faire ça. On n'a pas le temps de penser à l'héroïsme.
C'est-à-dire à quoi on pense lorsqu'on fait un assaut, lorsqu'on prend des balles, tiens, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense qu'on va mourir?
Quand on est en situation très dangereuse, justement, on a besoin de 100% de notre capacité mentale. Si tu mets 10% sur, mes enfants vont se retrouver orphelins si jamais j'échoue, je risque de... Si tu penses ça, c'est 10% qui vont te manquer, c'est 10 autres % qui vont te manquer. Nous, on a une tâche compliquée. C'est parce que le terroriste en face, lui, en règle générale, il est à 100%. Il est peut-être même des fois à plus que 100% parce que lui, il n'a pas peur de mourir. Par exemple, parfois, il est dopé. On sait qu'au Bataclan, ils avaient du captagon. Donc, ils sont à plus que 100%. Donc, toi, tu es obligé d'être à 100%. Donc, la technique, c'est de se concentrer 100% sur le travail que tu as à faire et de pas papillonner. Donc en fait, c'est pour ça que je pense que la qualité première, c'est la capacité de concentration, plus que des capacités un petit peu... le courage, l'héroïsme, tout ça, c'est un peu émotionnel, c'est un petit peu sociétal, ça. Nous, on doit être à 100% dans la tâche technique, concentré. En fait, c'est ça, le professionnalisme.
Merci beaucoup, cher Marc. On va passer à l'entretien, mais avant ça, je vais présenter les invités qui sont autour de la table. Alors, Serge Federbuch, notre ami Serge Federbuch, régulier ici sur Géopolitique Profonde, qui a écrit Covid Story, une étrange défaite, essayiste, ancien élu, chroniqueur, il a toutes les tâches.
J'attends
comment ça
que
va?
Tu prononces le mot héros. Et
héros aussi.
J'ai l'impression que ça va pas venir. Je sais pas pourquoi.
Ancien héros de la mairie de Paris.
Ah,
oui.
Ah bah, c'est une guerre. Là, c'est une guerre larvée. C'est pas vraiment. Tantôt, il y a des assauts aussi. Hein.
Bah oui, quand même, avec Madame Hidalgo, c'est pas
bah,
rien.
Hein. Bah oui, il faut prendre ça. D'ailleurs, on devrait peut-être envisager des méthodes. Voilà.
Mais elle aussi est dangereuse.
Hein. Bah oui, oui, bah, oui, très très dangereuse.
Sa manière.
C'est du terrorisme de longue effet.
Voilà. C'est une lente agonie qu'elle nous inflige.
Bon, comment ça va, cher Serge?
Très bien. Un peu fatigué, mais très bien.
Bon,
mais
t'es là, prêt?
Je sens qu'avec ce
t'es
débat.
T'es prêt, tu vas. Bah oui.
Je vais reprendre un peu du poids.
Mais oui, mais évidemment. En face, nous avons notre économiste préféré, Olivier Piacentini. Montrez notre ami Olivier et son futur livre, N'ayez plus peur, l'Occident renaîtra comme le phénix qu'on retrouve en précommande partout. Déjà, j'imagine que ça doit marcher, non, ce nouveau bouquin?
Ben, j'espère, oui, il y a déjà des précommandes. Moi, mes livres en général se vendent bien, donc j'espère sur ce livre. Alors, c'est un livre qui, j'espère, va changer un peu mon image, puisqu'il paraît que je suis maniaco-dépressif, que j'annonce toujours la fin du monde, etc. Là, j'ai voulu proposer des solutions.
Enfin, ben, il faut des solutions, évidemment.
Malheureusement, en étant maniaco-dépressif, je me suis rarement trompé, parce que franchement.
Donc c'est des solutions de maniaco-dépressif, alors.
Voilà, exactement. Ben, non, moi, je pense tout simplement que je suis très réaliste et que je vois la France s'enfoncer, les problèmes aujourd'hui de dette, de déficit. Ça fait des années que j'en passe, c'est que j'en parle, le gouvernement a l'air de s'en affoler là aujourd'hui, mais en fait ça fait des années. Je voudrais dire vraiment à quel point je suis admiratif devant monsieur qui dit qu'il n'est pas un héros et qui se concentre sur un travail et une technique, mais enfin c'est pas tout le monde qui est capable de ça au milieu des balles et au milieu du danger. Et je pense que ce que vous avez à la boutonnière, vous le méritez largement et beaucoup plus que bien d'autres, je vous le dis franchement. Merci de sauver la France et de risquer votre vie pour nous sauver.
En tout cas t'as l'air ému là.
Bah oui, franchement, si je peux faire une petite aparté.
Vas-y.
Mon arrière-grand-père était gendarme, et lui a arrêté le plus grand bandit corse, vous trouvez ça sur Internet, qui était Spada. Et je n'ai jamais su exactement comment il a fait. Le fait est que Spada, qui avait tué 30 personnes avant, a demandé que mon arrière-grand-père le suive partout, y compris jusqu'au procès. Et les supérieurs de mon arrière-grand-père lui ont dit de le faire pour obtenir des renseignements ou des choses. Et mon arrière-grand-père aussi a été décoré comme vous. Et c'est des gens comme ça vraiment que j'admire. Il n'y a plus que des gens comme vous que je peux admirer.
Merci beaucoup. Merci à toi, cher Olivier. Et à ta droite, en éditorialiste ce soir, Jean-Maxime Cornet. Alors là, t'as tout. T'as amené le bloc-notes, l'ordinateur, là, t'as les documents, t'as tout. Hein.
Ouais, c'est ça. On va creuser quelques docs ce soir. C'est vrai que c'est en cette époque où on distribue les médailles, les légions d'honneur dans chaque ministère, c'est comme s'il y avait un quota, vous savez, et qu'après il s'agit de demander « moi je peux l'avoir ». Mais non, normalement ça se mérite en fait.
C'est bah vraiment, oui, normalement c'est terrible.
C'est après, il y a les blagues de la Légion là-dessus. Ce n'est pas les droits de l'homme, c'est les devoirs de l'homme. C'est le grand problème de la démilitarisation des populations qui fait que, justement, par réaction, on a un culte des héros. Et quand on voit en réalité la télévision, ne serait-ce que dans une seule journée de télévision, vous assistez à 1000, plus de 2000 homicides, un nombre incalculable de violences, alors que les gens sont préservés de la violence au quotidien et sont strictement incapables de réagir dans les situations de violence. De plus en plus souvent, on a ce problème-là. Et également, ce qu'on appelle, c'est un autre problème de droit administratif sur lequel on reviendra, mais ce qu'on appelle les COSP, collaborateurs occasionnels du service public. Aujourd'hui, la subversion est allée tellement loin que la police est suspecte par bien des égards, les gens, à la différence des États-Unis, par exemple, vous avez des co-répondants avec la police qui peuvent prendre place aux côtés de la police, armée ou désarmée, pour aider la police dans un contexte qui est logique. Aujourd'hui, en France, la logique est de que ça soit illogique. C'est assez subversif.
Bah oui.
Vous voyez déjà mon idée.
C'est pour ça qu'on ne veut pas, nous, cette notion de héros, parce que souvent, cette notion de héros, elle est construite par la politique.
Les médias, voilà.
La politique choisit l'histoire qu'elle veut mettre en avant, donc elle choisit ses héros, elle fabrique ses héros. Donc on ne se reconnaît pas dans ces héros tout fabriqués. Et puis en plus, dans la notion de héros, il y a une notion un petit peu figée. Nous, quand on est opérateur, on sait qu'aujourd'hui tu fais une belle perf, mais parce que tu ouvres une porte particulière ou tu réussis une... Mais quand tu es opérateur, t'aimes pas trop faire le malin sur ta réussite parce que tu sais que la semaine d'après, tu peux être mis en échec parce que ça va très vite.
Mais est-ce qu'on n'a pas besoin dans ces temps troubles? Parce qu'on on vit quand même une période compliquée. Est-ce que, moi, par exemple, ce livre, bah, c'est un livre, je trouve, qui m'a fait du bien. Voilà, j'ai aimé lire ce livre parce que je me suis dit, voilà, il y a encore des gens en 2024 qui agissent, qui sont dans l'action, ce qu'il y a de moins en moins.
Ouais, bah bien sûr, là, vous faites référence aux valeurs, quoi.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où tout va vite, il y a des fake news, il y a du... Tout va trop vite et en fait, on parle plus de valeurs, on parle plus d'engagement, on parle plus... Moi, ça me fait penser à ces blasons. En 1790, on a coupé des têtes, on a sûrement coupé trop de têtes, mais on a aussi coupé beaucoup de légendes, enfin de les blasons, c'était des comment
les armoiries.
Ouais, toutes ces armoiries là, toutes ces choses, toutes ces traditions. Voilà, je cherchais le mot tradition. Toutes ces traditions, on en a coupé beaucoup et on en a coupé trop aussi, parce qu'on aurait pu la garder. C'était très connu, ça, la science des blasons, l'héraldique. On aurait pu garder ça et la mettre à la sauce républicaine, pourquoi pas, ça aurait été possible. Mmh. Et ça met en valeur
Bien
ça
sûr.
Met en avant les valeurs.
Et d'autant plus que
les
nobles
ont créé
leur
secondes,
sur leur courage. Et vous auriez pu être anobli aujourd'hui. Si nous
merci, Olivier.
Fais de guerre.
On fait l'entretien de 20 minutes, après on va passer au grand débat et tu pourras parler avec grand plaisir. Et d'ailleurs j'aimerais que tu parles après parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. D'ailleurs tu me l'as dit au téléphone, tu avais beaucoup de choses à dire. Mais justement les valeurs du RAID, qu'est-ce que c'est? Parce que le RAID c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop en réalité, le grand public ne connaît pas trop.
Alors moi je suis rentré au RAID et dans la police, j'étais avec des valeurs sportives au départ, puisque je viens du haut niveau, j'ai été 5 ans en équipe de France de judo, et mon parcours est un peu particulier, parce que je suis pas arrivé au RAID parce que j'avais de la famille dans la police. En fait, j'avais pas de vocation particulière à rentrer dans l'armée, la police ou la gendarmerie. Et donc, c'est un peu des valeurs sportives qui m'ont emmené, c'est-à-dire qu'il me fallait un métier, donc courir derrière un voyou, le faire tomber et lui passer des menottes, je me suis dit, ça, je sais faire, et donc je suis rentré comme ça. Et puis une fois dans la police, eh bien, avec l'esprit sportif, bah, t'as envie d'attraper les plus gros voyous. Et puis c'est comme ça que j'ai été au RAID. Les valeurs de sportif, pour moi, c'est déjà presque suffisant pour performer dans n'importe quel métier. Parce que t'as envie d'être le plus fort physiquement, t'as envie d'être le plus fort techniquement, t'as envie d'être le plus fort moralement, psychologiquement. Donc déjà, ça permet. Ça permet de chercher à progresser sur soi et à te performer. Mais ensuite, une fois que t'es au RAID, il y a encore d'autres valeurs qui te poussent à t'entraîner. Parce que il y a une femme violée qui va pleurer sur toi, on va enjamber un mort qui est mort pour rien, tu vas entendre son téléphone vibrer dans la poche, et toutes ces choses-là, ça va te révolter contre l'injustice, contre la violence, contre ceux qui gagnent de l'argent sans se lever le matin. Et ça, c'est des valeurs qui se rajoutent, c'est des valeurs plus sociétales, mais elles te portent à t'entraîner et t'as envie de leur faire mal. Et donc, les valeurs sportives plus ces valeurs-là sociétales, eh bien, ça t'amène à performer.
Est-ce qu'on a une image exacte du RAID et de la police aussi? Parce que la police, les gens disent, oui, regardez, ils mettent des coups de bâton aux manifestants, ils sont derrière l'État. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas une cassure peut-être entre la police et le reste de la population?
Ouais, des fois, on essaie de nous mettre une image comme ça. Alors, c'est construit, à mon avis, depuis longtemps. Hein, déjà, en mai 68, on parlait de CRSSS, alors qu'à l'époque, CRS, c'était des fils d'ouvriers. Enfin, ils avaient rien de SS. Mais voilà, il y a toute une espèce de... Enfin, je sais pas, moi, je connais pas trop cette histoire de... Pourquoi cette accusation? Alors que nous, on est au service du citoyen, on n'est pas... Nous, par exemple, au RAID, quand on libère un otage, on ne sait pas l'orientation sexuelle, politique, l'origine de la personne qu'on va sauver. Et d'ailleurs, on s'intéresse pas trop à ça parce que ça nous disperserait encore. Hein. Donc nous, on nous dit pas qui est le preneur d'otage. Voilà, on a une tâche technique à effectuer, on l'a fait et on fait pas de politique parce que pareil, la politique, ça serait des pourcentages de cerveau qui s'éparpilleraient.
Et oui, il faut être focus, j'imagine, sur l'action. Par exemple, lorsqu'on est face à Mohamed Merah, il faut être focus sur cet assaut, quoi. Il faut pas penser à rien d'autre.
Oui, sur la tâche technique. C'est-à-dire que, en fait, nous, on n'a pas affaire à une femme, un enfant, un homme, un terroriste, un étranger. Non, on a affaire à une menace. Et la menace, elle est dangereuse. Parce que elle peut tuer toi, elle peut tuer ton pote, elle peut tuer l'otage. Donc en fait, cette menace, nous, on l'analyse comme une menace en tant que telle. Et c'est pas vraiment un humain. C'est pas, voilà, on règle. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? On dispose de différentes tactiques, de différentes armes. Et on essaie de régler ça le mieux possible. Parce qu'en plus, nous, notre but, c'est d'être le moins violent possible. Puisque notre but, nous, c'est de prendre la personne pour la confier à la police judiciaire qui fera l'enquête, c'est-à-dire qui trouvera les complicités, celui qui a fourni les voitures, celui qui a fourni l'explosif. Et donc, nous, par exemple, un simple nez cassé, et c'est pas un échec parce que tu peux pas faire autrement, mais un simple nez cassé, c'est une personne qui, au lieu d'aller se faire auditionner, eh bien, va aller à l'hôpital. Et donc, les 96 heures de garde à vue serviront à rien. Et donc, en fait, c'est un échec. Parce que, voilà. Parce que, il y a des polémiques. Vous parlez de l'affaire Merah, la polémique. On l'aurait tué. Ben non, on a tout fait. 33 heures pour ne pas le tuer. 33 heures pour essayer de l'avoir.
Justement, comment s'est préparé l'assaut? Enfin, comment s'est préparé, voilà, du début à la fin, l'action contre M. Merah?
Nous, dans cette action-là, c'est une assistance à police judiciaire. Puisque, en fait, quand on donne l'assaut, on n'est pas certain que ce soit lui. Et puis, on peut pas. Puis, il n'y a pas une. Enfin, il n'a pas d'otage, il n'a pas tout ça. C'est une assistance à police judiciaire. Ça veut dire ce genre d'arrestation qu'on fait d'habitude à 6 h du matin. Et là, comme les attentats d'avant, les trois attentats étaient vraiment meurtriers, on a réussi à avoir l'autorisation du juge à donner l'assaut à 3h15 du matin, ce qui est rare. Donc, c'est une assistance à la police judiciaire. On doit casser la porte, aller le prendre quand il dort, lui passer des menottes et le donner à la police judiciaire. Bah, ça se passera pas comme ça parce que finalement, il dormait pas. Et à peine, on a ouvert la porte, qu'il a tiré à travers la porte. Et puis là, il s'est... voilà. Ça a duré 33 heures pour essayer de l'avoir vivant. Mais justement, là, il n'y a pas d'otage. Si c'était agi de tuer cet individu, il n'y avait pas besoin du raid. Un militaire à la retraite qui sait utiliser un lance-roquettes aurait suffi. Voilà, nous, on a mis 33 heures parce que le but du jeu, c'est d'attraper les gens vivants pour essayer de comprendre les cheminements sociétaux, mais aussi, surtout, pour avoir les complicités, parce que des complicités, il y en avait, puisqu'il avait non seulement une moto, deux véhicules, deux autres voitures pleines d'armes, des voyages, etc., pour quelqu'un qui ne travaillait pas ou presque pas. Voilà, donc
le but, c'est d'avoir... Est-ce qu'il y a de l'adrénaline quand on fait un assaut? Comment ça se passe? Ou vous avez un entraînement spécifique pour justement être froid et...
Bon, on essaie d'être le plus technique possible, mais dans une affaire comme Mohamed Merah, par exemple, on a assisté au briefing avant, on a fait un briefing sur les coups de 18h, et là, tous ceux qui le connaissaient, qui connaissaient son parcours, nous ont expliqué. Bon, là, c'est difficile de pas avoir... de pas avoir d'émotion et de pas avoir d'adrénaline, hein, parce qu'on savait qu'on se mettait dans une intervention difficile, puisque les 10 jours précédents, il avait tué le militaire qui vendait sa moto. 4 jours après, il avait tiré sur 3 militaires qui recevaient de l'argent. Il y en a un qui, enfin 2 morts et un qui est encore aujourd'hui aux Invalides, parce qu'il était tétraplégique. Et puis après, 4 jours après, la maternelle, enfin l'école, avec un enfant de 3, 5, 7, plus un parent d'élève de 33 ans. Bon, on n'a pas vu les images, parce qu'elles existent, on les a vues qu'après, mais la personne des renseignements généraux nous avait fait un briefing. On savait qu'on allait tomber sur un jusqu'au boutiste et que ça risquait d'être dangereux.
Alors vous avez pris 2 balles, une à l'épaule, une à la tête. Est-ce que vous êtes senti mourir ?
c'est à la troisième heure. Parce que dès qu'on ouvre la porte, il y a des balles qui impactent celui qui ouvrait la porte, mais dans le plexus, il n'est pas blessé, vraiment. Mais voilà. Après, il y a trois balles qui tapent le bouclier dans la colonne d'assaut. Il y en a un qui prend aussi une balle dans le genou, c'est le premier vraiment blessé. Et puis un qui prend un ricochet, mais voilà. Et moi, et après il y a des ouvertures de feu côté extérieur, côté sniper. Trois ouvertures de feu de notre côté. Et à la quatrième ouverture de feu, moi, c'était donc au bout de 3 heures, c'est aux alentours de 6 heures du matin. Eh bien, en effet, j'ai pris la première dans le casque. Elle m'a sauvé la vie parce que, bon, elle a pas traversé le casque, mais elle a bombé le casque. Moi, j'ai été cogné par l'impact. Et puis, ça m'a sauvé la vie parce qu'en fait, ça me fait tourner le dos. Et la deuxième balle, au lieu de me frapper pleine gorge, elle me frappe à l'arrière, elle fait un trou rentrant en bas de l'épaule et elle sort au-dessus de l'épaule. Donc j'ai eu 2 coups de chance parce que les deux balles n'ont pas... Ça a fait une hémorragie cérébrale. Maintenant, j'ai une sphère de 7 mm de cicatrice, mais j'ai quasiment pas... J'ai pas de séquelles. Quasiment.
Mais après coup, vous avez quand même continué dans le raid, alors que vous pourriez dire, voilà, j'ai échappé à la mort de peu, il faut que j'arrête. Vous prenez cette décision, du coup, de continuer. Ou est-ce que vous êtes dit, tiens, je vais quand même peut-être freiner, ou je vais arrêter, ou je vais me mettre dans l'administration plutôt, de la police ?
Cette balle, elle a changé un petit peu les choses par rapport à mon épouse, qui avant n'était pas inquiète. Elle vient du sport, donc elle n'a pas peur des blessures. Voilà. Mais après, il y a quand même eu un après-mère. Alors moi, perso, je n'ai pas été vraiment très, très marqué, parce que je n'ai pas été stressé par ces balles, puisque... Après coup, oui, mais je les ai reçus par surprise. C'est pas prévu que je reçoive des balles. Et parfois, t'es plus stressé par des situations où, des fois, on est plus stressé par des balles qui sont pas tirées, parce que il y a des moments dans une intervention où tu t'exposes, parce que tu peux pas passer la zone de manière sécurite. Et donc, tu sais que pendant 2-3 mètres, tu vas accélérer, et tu sais que ces 2-3 mètres là, si jamais ça tire, tu vas être touché. Alors des fois, tu estimes que le pourcentage est faible, mais des fois, tu sais que le pourcentage est élevé. Et en fait, tu prends un risque qui ressemble un peu à lancer de dés, qui a des fois des odeurs un petit peu de suicide. C'est pas vraiment un suicide, mais c'est une espèce d'abnégation. Tu dis, il n'y a pas moyen de faire autrement, je vais m'exposer. Pareil, quand tu ouvres les portes, hein, des fois, tu peux pas faire en toute sécurité, tu es obligé de te mettre devant parce qu'il n'y a pas... Et là, tu te dis, si ça tire, je prends. Et donc, ça ces moments-là, par contre, eux, ils sont plus traumatisants parce que tu lances les dés et tu te dis, bon, ben voilà, il n'y a pas moyen de faire autrement. Si ça tire, je vais te toucher. Et ça sera la chance après qui fait que tu as des séquelles ou tu n'as pas de séquelles ou même tu es mort. Bon, alors finalement, moi, dans l'affaire Mera, je n'ai pas été super choqué et donc j'ai continué.
Est-ce que c'était le cas aussi pour l'ouverture de la porte de l'hypercachère? Est-ce qu'il y a eu aussi une autre façon de faire? Est-ce qu'il y a eu peut-être une appréhension pour ouvrir cette porte? Comment ça se passe?
Alors, la porte de l'hypercachère, elle était particulièrement compliquée. Parce que, c'est un magasin, donc c'est une cible pour les cambrioleurs. Donc forcément, la porte est particulièrement sécurisée. La porte que j'ouvre, c'est la porte de service, avec mon camarade. C'est la porte de service qui donne sur les réserves. Donc cette porte-là avait plein de caractéristiques qui faisaient qu'elle était difficile à ouvrir. Notamment, elle était tirante. Et quand tu veux ouvrir une porte... Enfin, dans un truc comme ça, quand c'est dangereux, quand les portes sont difficiles, on essaie de les ouvrir toutes. Et comme ça, s'il y a un échec, eh ben, on passe par celle qu'on a réussi. C'est comme ça dans les avions, c'est comme ça dans les trains. Et bon, alors cette porte, elle était tellement compliquée qu'on y a été à 4 au départ. On a été faire un petit brainstorming, on a été voir 4 spécialistes, on a été voir la porte. On n'a pas traîné parce qu'il ne fallait pas déclencher la crise. Et on est revenu aux voitures, on a fait un petit brainstorming. Qui a vu quoi? Qui a une idée de l'outil le plus adapté pour ouvrir cette porte? C'est moi qui avais une bonne idée, c'est moi qui étais désigné avec un camarade. On a préparé l'explosif. Et puis, on a réussi la performance d'ouvrir une porte tirante avec de l'explosif qui pousse. Parce qu'il fallait faire vite, parce que derrière, il y avait 19 otages à l'étage, 7 otages en bas, donc un total de 26 otages. Et là, si tu ouvres la porte de manière laborieuse, il avait prévenu les otages. Bon, bien, voilà, une Kalachnikov de terroriste, ça tire 600 coups par minute. Donc une seconde de retard, eh bien c'est 10 coups de feu. Donc potentiellement c'est 10 morts. Donc 3 secondes de retard dans l'ouverture de cette porte, ça peut être, ça y est, il n'y a plus d'otage.
Est-on préparé justement à donner la mort ? Parce que Koulibaly est mort, Monsieur Merah aussi. Est-ce qu'on est préparé à ça ? Parce que même si c'est des terroristes, est-ce que on se dit tiens ça reste quand même un humain, voilà. Est-ce qu'on est préparé
Ah bah celui qui s'y prépare pas, il fait une grosse erreur. Dès l'école de police, avant même d'aller au raid ou quoi, quand on t'affecte une arme, si tu penses pas à ça, c'est-à-dire que tu sais que tu vas être exposé à des balles et tu sais forcément que toi tu vas être exposé à tirer, si tu réfléchis pas à ça, tu risques d'être amené à y réfléchir. Dans le moment, quoi. C'est-à-dire que si au moment de tirer, tu te dis, là, moi, je suis catholique, je peux pas, tu tueras point, ou si tu te dis, la terroriste est une femme, je tire pas, ou c'est un enfant, bon, bien, forcément, tu vas prendre des balles. Parce qu'en face, lui, par contre, il va pas se poser de questions.
C'est sûr.
Lui, il a réfléchi au truc. Donc, évidemment que t'y penses, et puis quand t'es au raid, c'est encore pire, parce que tu sais que tu seras plus amené à tirer que ailleurs. Et bien sûr qu'il faut y réfléchir, surtout pour ne pas se poser la question au cœur de l'action.
Est-ce qu'on est préparé à ça ? Parce que, en fait, Mohamed Merah, Koulibaly, les frères Kouachi, etc., c'est venu après les années 2010. Avant, il n'y avait pas du tout ce terrorisme-là. C'était totalement nouveau, quand même, en France, en tout cas. Enfin, si, il y a les années 90, mais bon, c'était plutôt des attentats à la bombe. Est-ce qu'on est vraiment... est-ce qu'il y a une formation spécifique pour ce type d'individu ?
La formation, elle vient déjà des anciens. Parce que, quand même, moi, quand j'arrive au raid en 98... Même si on est loin encore de l'affaire Merah, en 98, il y a déjà eu trois morts sur un forcené, un mort en Corse sur du banditisme. Donc ça fait 3 morts et une vingtaine de blessés par balle. Déjà les anciens nous parlent, on sait qu'il y a quelque chose. En plus, on parle souvent de Mohamed Merah comme l'an zéro pour nous, mais non, en fait en 96,
oui, Mohamed,
le raid a donné l'assaut sur le gang de Roubaix.
Oui. Ah oui,
il y avait Human Bomb aussi.
C'est quatre. Ah oui,
il y avait Human Bomb.
Il y a Human Bomb aussi.
C'était déjà autre chose.
Oui, mais en ce qui concerne l'islamisme, c'était 96.
Comment elle s'appelait ?
C'est un groupe qui était lié au GIA algérien, mais qui était aussi lié à la Bosnie. Et ils sont quatre dans l'appartement. Nous, on aura un blessé très grave. Qui prendra une balle de Kalachnikov dans la bouche, il passera très près. Voilà, il y aura un blessé un peu plus léger, et puis un autre qui a failli brûler dans la maison. Voilà, les quatre terroristes mourront. Les anciens n'ont pas pu faire autrement non plus. Les anciens, il y a une grosse culture de l'ancien chez nous. À chaque fois qu'on fait une intervention, on débriefe cette intervention. On débriefe aussi les interventions qui ont eu lieu à l'étranger. Et bien sûr, on débriefe les interventions des anciens.
Est-ce qu'entre vos débuts au raid et la fin, vous avez senti une évolution de la société française vers plus de violence, vers une forme d'américanisation de la société ?
Oui, bien sûr. En 98, on a surtout affaire à des fusils à pompe. Il y a peut-être une calage de temps en temps, mais c'est surtout pour la photo. Et quand j'arrête en 2018, eh bien, on a vu les frères Kouachi dans Charlie Hebdo qui avaient un lance-roquette. L'explosif des terrasses parisiennes, du Bataclan et du Stade de France avec de l'explosif, même pire que de l'explosif normal, de l'explosif en primaire, c'est-à-dire que les militaires qui nous avaient donné leur expérience de la Syrie, de l'Afghanistan et du Mali, c'est de l'explosif récupéré dans les carrières et de l'explosif militaire. Quand tu tires sur le terroriste, l'énergie de la balle ne déclenche pas le gilet. Dans le 13 novembre, ces gilets-là étaient faits pour que, si jamais tu tires, ça explose. Koulibaly avait aussi de l'explosif. À Saint-Denis, la colonne d'assaut reçoit 3 grenades, des grenades faites maison, Parce qu'il y a des tutoriels maintenant sur, sur Internet, sur le Darknet, sur les clés USB des terroristes. Et donc, c'est des grenades faites avec du matériel acheté dans un magasin de bricolage. Donc, on a reçu ces trois grenades-là. Donc, en fait, tout ça... et puis, j'ai pas parlé des Kalachnikov, mais maintenant.
Et puis même aussi des GoFast.
Ça s'est généralisé.
Vous avez fait aussi des GoFast contre les dealers de drogue. Et j'imagine que ça aussi, les GoFast, c'était peut-être une nouveauté à l'époque.
Oui, et la violence, toute cette violence-là, elle s'est énormément accentuée. Je me rappelle même en 98, nous, il nous arrivait quand on faisait un 6 heures du matin, quand le 6 heures du matin s'avérait délicat et que la personne habitait au 6e étage. Eh bien, il nous arrivait des fois de sonner au premier étage pour regarder l'appartement, comment il était agencé, alors qu'en 2018, c'est plus possible. Parce que avant, il y avait un seul point noir dans l'immeuble. Ouais. Maintenant, on part du principe que tout l'immeuble n'est pas bon. Donc là aussi, il y a eu une évolution dans l'intensité de la violence, mais aussi dans la quantité de violence.
À quoi c'est dû, d'après vous ? Voilà. Est-ce que la nouvelle génération, peut-être par Internet, par les, je sais pas, peut-être l'environnement, la crise économique,
les frontières déjà,
les frontières aussi,
puisqu'il n'y a pas de frontières, donc forcément les armes rentrent comme la drogue, comme les voyous, comme tout le monde. Donc on se retrouve avec des armes. D'ailleurs, on a accentué notre collaboration avec les forces spéciales militaires, parce que les forces spéciales militaires étaient intéressées. Alors, on a beaucoup sympathisé avec le premier PMA, mais avec l'Orient aussi. Le CPA-10, enfin toutes les forces spéciales militaires. Pourquoi ? Parce que leur mission, à eux, ressemble de plus en plus à des missions de police, puisque c'est fini l'époque où, à droite, y a les ennemis. Et maintenant, ce sont des guerres un petit peu où il faut aller neutraliser quelqu'un parmi une population de gentils. Donc c'est une mission un petit peu police. Et puis nous, inversement, on était intéressés par avoir leur expérience, parce que nous, inversement, la mission ressemble à une mission de guerre, puisque maintenant, à cause de la détermination des gens, mais je parle des terroristes, mais pareil pour les criminels et même pareil pour les délinquants, eh bien, ça ressemble maintenant à des missions. Donc, on a coopéré, on a fait des stages ensemble, on a été chercher de l'expérience pour pouvoir faire face à ça, parce que nos missions se ressemblent de plus en plus.
Merci beaucoup, cher Marc. On va passer au grand débat. Et donc, notre ami Olivier Piacentini, qui trépigne, pourra poser ses questions.
Ben non,
attends, mais avant ça, les petites annonces. Oh là là.
Vous aimez nos émissions ? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le plus gros de notre travail, c'est notre revue mensuelle. Et pour le numéro de mars,
un iceberg droit devant !
Nos auteurs écrivent pour vous les meilleures analyses économiques et politiques. Au sommaire, Jean-Maxime Corneille, le narratif supplante la réalité. Laurent Ozon, la médecine occidentale en crise. Philippe Erlin, 2024, l'année du Bitcoin. Si tout comme nous, vous pensez que l'indépendance économique et intellectuelle sont les deux jambes pour fuir le naufrage, alors cliquez sous la vidéo.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et n'oubliez pas de commander la lettre de Géopolitique Profonde de ce mois-ci, spécial Bitcoin avec le grand dossier de notre ami économiste Philippe Perlin. Donc tiens, qui veut commencer là ? Qui veut parler ?
C'est pas obligé.
Allez,
que ce soit moi.
Olivier, vas-y, commence.
Tiens. Écoutez, moi je vous ai écouté. J'ai bien pris note de votre humilité par rapport au fait que vous ne voulez pas revendiquer le titre de héros, mais enfin tout indique dans votre discours que vous en êtes un, au sens premier du terme, parce qu'effectivement le terme est tellement galvaudé aujourd'hui. Quelqu'un qui a marqué un but en finale de la Coupe du Monde devient un héros, mais enfin il s'est pas sacrifié. Vous risquez votre vie. Vraiment, je me pose la question. Parce que je ne suis pas comme vous, et les gens qui sont autour de cette table ne sont pas comme vous. Quelle est vraiment votre motivation ? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? Qu'est-ce qui vous pousse à risquer votre vie, à oublier effectivement votre épouse, vos enfants, votre famille, votre vie, vos passions dans la vie, enfin tout ça, tout le plaisir que nous avons quand même à vivre, à trouver des moments. Qu'est-ce qui fait que tout ça, vous êtes prêt à le sacrifier ? Qu'est-ce qui est en vous ? Où est cette force ? Qui, qui, qui fait que vous pouvez vous asseoir sur tout ce qui a une importance essentielle pour tout le monde et qui fait de vous, je suis désolé monsieur, je vais vous contredire, je vais être contre vous, puisqu'il paraît que je suis méchant ici, qui fait de vous un héros, et pas nous.
Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des valeurs. C'est sûr qu'à force de côtoyer des victimes, t'as envie de te battre pour les défendre. Parce que cette injustice, elle est enjambée à mort. Quand on entend le téléphone portable vibrer, ça te change un homme. Tu vois, t'as envie que ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, il y a ça. C'est le cumul d'injustice, t'as envie, puisque t'as les moyens de le faire, voilà, on donne l'opportunité, t'as envie de te lever, même, voilà, on se lève souvent à 3h du matin pour faire les 6h, t'as envie de donner. Mais plus que ça, après, c'est le système cohésion qui fait ça. Une espèce de...
Une émulation collective.
Oui, parce que quand tu demandes à un policier pourquoi il a pris un risque pour sauver son camarade, ils répondent rarement « j'ai fait ça parce que c'est le règlement, parce que ah oui. pour le chef ». Il dit toujours « j'ai fait ça parce qu'il aurait fait la même chose pour moi ». Quand on lit les textes, par exemple, sur Dien Bien Phu, il y a des gens qui ont sauté sur Dien Bien Phu alors que l'affaire était réglée. D'accord. Ils ont dit « on y va pour les copains ». Voilà, ça revient tout le temps, systématiquement. D'accord. Et moi, je l'ai vécu. Et en effet, parce que tu vis tout le temps ensemble, il y a une espèce d'émulation, t'es là, et puis on a intégré ça. Hein. C'est-à-dire que, alors certes, au quotidien, on a des meilleurs amis, on a des amis classiques, et on a même des gens qu'on n'aime pas dans l'unité. Alors on fait attention à ne pas le dire, parce qu'il ne faut pas nuire, il faut des garde-fous, on s'aime tous, mais bon, la vérité, c'est qu'on est quand même...
Comme tout le monde, comme
mais
partout.
Mais par contre, on a bien intégré... qu'en intervention, cette distinction-là, elle n'existe plus. Parce que sinon, ça nuirait à ta sécurité. En intervention, déjà, on ne se reconnaît pas toujours parfaitement, mais voilà, quand quelqu'un te presse l'épaule, quand tu temporises parce que tu ne peux pas rentrer dans un endroit dangereux tout seul, tu temporises un peu, quand tu sens que quelqu'un te frappe derrière, cette pression, elle veut te dire « je suis là, je suis prêt ». Et t'inquiète pas, quoi que tu fasses, je serai là pour t'aider, pour te compléter. Et là, nous, on ne se retourne pas pour regarder si c'est ton meilleur ami ou si c'est ton ami classique ou si c'est même ton camarade que t'aimes moins. Parce que la règle, là, moi, j'ai pressé des épaules à des gens que je ne savais même pas qui c'était. Et j'aurais risqué ma vie pour lui. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'alternative possible. La réussite, elle est collective. Et si t'en as un qui commence à dire « Ah oui, mais moi, non, ça ne m'arrange pas. » Bon, bah non, tu vois. Donc, en fait, le collectif, à mon avis, il est clé. Okay. Plus encore... Enfin, c'est une valeur, hein, le collectif. Mais plus que toutes les autres valeurs, la valeur cardinale, c'est le collectif.
Et ça vous aide à surmonter vos peurs et vos craintes et avoir l'émulation. Et excusez-moi, je
pose... Vas-y.
Mais vraiment, parce que j'ai tellement de questions à poser, mais mes collègues aussi, certainement. Nous sommes ici tous des patriotes. Mais vous l'êtes certainement plus que nous. Est-ce que vraiment ce patriotisme, là aussi, vous aide à aller plus loin et à aller plus loin dans le fait de risquer votre vie ?
C'est compliqué parce que, je vous disais, on n'essaie pas trop aux pensées politiques. Quand tu commences à penser politique, mais patriote, évidemment qu'on est patriote, parce que, bon, bah déjà, on a profondément ancré en nous, on a le drapeau, on sait pourquoi on travaille, on prend des risques pour la France, et nous, on travaille que intramuros, et bien sûr qu'on est tous patriotes.
J'ai juste une dernière question très rapide. Je vous ai écouté. Et ce qui m'a frappé aussi chez vous, mais vraiment qui m'épate, j'ai pas senti chez vous de haine par rapport aux gens que vous avez en face. En tout cas, dans votre discours, dans la façon dont vous en parlez. Or, moi, j'ai la haine pour ces gens-là, je pense que...
Négatif.
Jean-Maxime...
Négatif.
Bah...
Non, négatif.
Tu n'as pas de haine.
Il va donner la bonne réponse.
Je pose la question.
La haine nuirait à la mission.
Ben, oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui, alors après coup, c'est une émotion. Pas sur le coup, mais après coup, est-ce que vous avez de la haine pour ces gens-là ? Non, mais c'est lui qui doit répondre. Bah,
oui. J'ai pas répondu.
Ah, bah,
mais tu m'as posé la question l'instant.
Il a dit négatif.
J'ai répondu, voilà. Tu m'as appris, ouais,
c'est un vocabulaire technique, ça.
Voilà.
Bon, après coup, évidemment, on se trompe pas. Hein. On a des ennemis et puis on a des amis. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de patriotisme. Moi, je me bats pour que mon fils et ma fille puissent vivre dans le pays. Correctement. Mais mon grand-père était agriculteur, mon père était ouvrier, je suis attaché à la terre. Voilà, on se bat pour ça, quoi, hein, aussi, hein, pour ta famille. Pour moi, être patriote, c'est aussi défendre sa famille. Hein, voilà. Mais après, la haine, ben, on se trompe pas, évidemment, on a des ennemis. Hein, voilà, et on combat contre l'ennemi, mais au cœur de l'action, on pense pas à tout ça. Parce que je vous disais, on lave le côté émotionnel parce que tu ne peux pas te laisser entraîner dans le train des émotions, des pensées négatives, à donner des... C'est pour ça que je te parlais de la politique tout à l'heure, à donner des avis. En fait, tu n'as pas d'avis, tu as un problème à régler et tu te dois d'être à 100% dans le problème à régler. Alors après... Mais d'un autre côté, quand tu commences à trop penser à ça, eh bien, c'est presque le moment de partir parce que justement, quand tu commences à te dire que... Moi, ça m'est arrivé. Moi, je suis parti à 53 ans. La retraite, c'est 57. Mais quand tu commences à te dire que ta tâche, c'est plus une tâche réellement technique, c'est-à-dire que c'est plus une tâche police, mais c'est une tâche qui t'échappe, c'est une tâche politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, je peux encore rester au raid 10 ans, 50 ans, 100 ans, je ne réglerai pas le problème, parce que le problème qu'on me demande de régler, c'est pas un problème technique police. Alors quand tu commences à te dire ça, en effet, c'est le moment d'arrêter, parce que t'es plus à 100% dans le technique, t'as compris que la problématique, elle est politique, elle dépend pas de toi. Par exemple, à New York, quand ils ont nettoyé le métro à New York, c'est pas techniquement qu'ils l'ont fait, c'est une décision politique. Voilà. Alors quand tu commences à penser ça, eh bien, bah, t'arrêtes, parce que tu te dis, je suis plus dans le rail, je commence à me disperser.
D'accord, très bien.
Cher Serge ?
Ouais, bah justement, j'ai des questions techniques et politiques. Alors bon,
sur le Bataclan ?
Sur, d'une manière générale.
Bah vas-y.
Bon. On comprend que vous ne voulez pas faire de politique, en tout cas au sens politicien du terme, où on l'entend. Mais est-ce que vous avez été quand même rattrapé par la politique ? C'est-à-dire qu'à certains moments, par exemple, on a entendu dire qu'au Bataclan, il y a eu des ordres, une attitude de temporisation. Ouais. On ne sait pas trop de qui, de la préfecture, de police, du ministère de l'Intérieur, du chef de l'État à l'époque, peu importe. Bon, est-ce que vous avez ressenti à certains moments des interférences de la politique dans votre action technique ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, puisque je vais faire un as des deux, on entend aussi parler, et ça m'intéresse en tant que citoyen, pas de guerre des polices, mais de rivalité par rapport avec le GIGN ou d'autres, qui là est au départ sous évidemment une émanation de la gendarmerie, donc plutôt directement de l'armée plutôt que du ministère de l'Intérieur et de la police, même s'il y a eu un rapprochement. Est-ce que ça a pu interférer aussi dans votre action au quotidien ? Est-ce que ce type de dysfonctionnement administratif ou de rivalité ont eu des impacts sur votre action ?
Ah. Je peux pas vous répondre sur le Bataclan pile poil parce que moi pendant le Bataclan je suis dans un immeuble. Mais je vais pas contourner la question parce que je suis dans un immeuble à côté de la Bonne Bière. Moi quand j'arrive au Bataclan, les terroristes sont morts, l'affaire est presque finie. Il y a plus que des gens à l'étage et voilà. Mais la polémique je la connais bien et puis de toute façon je peux en parler parce que par contre Mera j'y étais et dans l'affaire Mera c'est pareil. Il y a eu des polémiques pareilles. On nous a dit, oui, il y a eu des ordres politiques parce qu'on était en campagne électorale. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez eu des consignes de tuer le terroriste, etc. Et objectivement, nous, sur le terrain, on ne reçoit pas de consignes comme ça. Parce que, bon, déjà, ça n'aurait pas de sens. L'interférence politique, bien sûr qu'il y a de la politique, sûrement jusqu'au poste de commandement, etc., puisque c'est le ministre qui désigne le directeur général de la police et le directeur général de la gendarmerie, qui désigne ensuite les grands chefs des unités comme la nôtre. Mais nous, on ne va pas nous dire « il faut tuer un tel ».
On ne vous dit jamais, par exemple, de temporiser pour je ne sais trop quoi, parce qu'il doit y avoir... une raison quelconque qui fait que à l'Élysée, à Matignon, au ministère de l'Intérieur, on veut faire une annonce, on veut préparer la communication autour du sujet, vous voyez, pour justement pas avoir l'air complètement de ramer derrière. Ça, c'est jamais arrivé.
Franchement, au cœur de l'action, c'est manipulation politique juste après.
Mais c'est pas de la manipulation, non, c'est vraiment c'est... un contexte qui est créé dans lequel vous devez obéir aux ordres.
Non, je pense que c'est tous ces ragots qui ont eu lieu après coup, c'est-à-dire après Mera, oui, on aurait utilisé, nous, on aurait utilisé les gaz lacrymogènes, nous, on aurait utilisé explosifs, le Bataclan, oui, on était déjà devant le Bataclan, on a été obligé de temporiser. C'est sûr qu'il y a eu peut-être des choses comme ça, mais elles sont sur, elles viennent surtout après coup, c'est-à-dire quand il y a des médailles à récupérer, quand il y a un intérêt de carrière, alors là, par contre, tout le monde met... voilà, mais au cœur de l'action. Alors bien sûr, moi j'ai des amis de l'abbaye qui disent qu'à un moment donné, on leur a dit de temporiser. Mais oui, mais alors après, est-ce que c'est une temporisation technique ou parce que faut quand même être un certain nombre pour donner l'assaut? Mais ces histoires de dire, enfin, tu fais référence à mon avis, le GIGN qui dit qu'il était là. Et bon, je pense qu'à force de répéter ça, le préfet de police a été voir les caméras de circulation à Pont-de-Sèvres et leur a dit la vérité. Non, vous êtes passé sur le pont à telle heure et pas à telle heure. Non, je pense pas qu'il y a eu un truc de, enfin, je sais pas, et quel intérêt, enfin, s'il y a des forces qui sont là.
Parce qu'ils peuvent vouloir, justement, s'ils ont été pris de court, ou si ça ne correspond pas à un discours politique, ou je ne sais trop quoi, bon, ils peuvent avoir un intérêt. Imaginons, par exemple, qu'il y ait une prise d'otage au moment des Jeux Olympiques, là, qui vont arriver. D'accord ? Bon, juste avant la cérémonie d'ouverture, eh ben, vous pouvez avoir des gens, au plus haut niveau de l'État, qui vont dire « Ah ben, on ne va pas lancer l'assaut tout de suite, parce que si ça tourne mal, on va devoir arrêter la cérémonie des Jeux Olympiques. » Enfin bon, il peut y avoir, à un moment ou un autre, c'est logique, c'est pas du complotisme, c'est la façon dont la vie s'organise, hein, et c'est la politique au sens large du terme. Il peut y avoir des interférences, ça paraît absolument logique.
Alors, moi, ouais, mais ça vient pas jusqu'en bas de l'échelle, quoi.
D'accord.
Alors, après, enfin, je dis pas
qu'en haut... C'est pour savoir si vous l'aviez senti, quoi.
Non, dans la
colonne. Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'il se passe quelque chose qui nous échappe, et quand on a le sentiment qu'il se passe quelque chose qui nous échappe, bien souvent... On a raison de le penser. Hein. Donc, bon.
Alors moi, je ne peux pas dire pour le Bataclan, parce que j'y étais pas, mais pour l'affaire Mera, je sais qu'il y a eu une démesure de fantasmes après qu'il y a eu, que nous, au cœur de l'action, c'était une vraie opération tout à fait normale, on n'a jamais reçu de consigne, quoi que ce soit, on a travaillé comme d'habitude, et on n'a rien... C'est après coup qu'il y a eu les manœuvres, mais je pense...
Et alors, les rivalités entre services, ça existe ou c'est encore un mythe
Non, non, ça, c'est pas un mythe.
Je n'ai pas posé que des questions débiles. Il y en a au moins une
non, qui est voilà. très pertinente.
Non, c'est pas un mythe. Alors, bien sûr, on n'a pas de leçons à prendre parce que les commandos de terre se moquent volontiers des commandos de l'air qui se moquent des marins. Il y a des phrases. Hein, voilà, les marins, c'est pas des malins, ça se voit de loin. L'armée de l'air, un peu d'armée, beaucoup d'air. Bon. Tout le monde a sa petite phrase. Nous, on a travaillé avec les démineurs, donc on sait que les démineurs militaires s'embrassent pas sur la bouche avec les démineurs de la sécurité civile, qui n'embrassent pas sur la bouche les démineurs de Paris. Bon, et nous, ben, voilà, moi j'ai fait 20 ans au RAID, le GIGN est à 5 km à vol d'oiseau, ben j'y ai pas d'amis. Au début, quand je suis rentré, je pensais que c'était uniquement en haut de l'échelle. Alors, faut pas que ça nuise à l'intérêt collectif. C'est-à-dire que s'il y a une intervention, on va collaborer, mais on va pas mixer les colonnes. Il y en a un qui s'occupera du premier étage, l'autre du rez-de-chaussée. Mais c'est vrai, franchement, on a plus collaboré nous avec les militaires. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'y a pas de concours de bites, puisque nous, on a vocation France, eux, travailler à l'extérieur. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec le premier RPMA, parce qu'on a ouvert nos ordinateurs plus volontiers qu'avec les concurrences Interpolice ou Police-Gendarmerie. Quoi.
Et pourquoi la police n'est pas... pourquoi le RAID n'est pas le GIGN ? Pourquoi pas être militaire ?
C'est le hasard, en fait, parce que j'ai eu les deux concours. Mais j'ai eu le concours de police en premier, et 15 jours après, j'avais la gendarmerie. Comme j'avais aucune culture des deux, j'aurais pu accepter gendarme, je ne sais pas ce que je serais devenu. Mais non, je n'avais pas de préférence. J'aime bien le côté police aujourd'hui, parce qu'on est un peu plus libre, on est un peu plus civil, on est moins coincé dans une institution avec ta famille qui dort dans le même immeuble que tout le monde. Bon voilà, mais sinon j'ai pas de. On est des unités qui se ressemblent beaucoup, hein, puisque sur le terrain, partout où il y a une gendarmerie, c'est le GIGN, partout où il y a un commissariat, c'est nous. Bon. Notre professionnalisme, c'est le même, nos entraînements, c'est les mêmes, et on fait quand même quelques échanges, hein, même si je vous dis, moi, j'ai pas été amené parce que c'est quand même pas le top au niveau relationnel, mais parce qu'il y a toujours un peu de concurrence ou de choses comme ça. Mais il y a un côté émulation qui peut être positif, mais il y a un côté, en effet, on s'ouvre pas l'ordinateur comme ça.
Cher Jean-Maxime.
Je vais revenir un peu sur les... C'est très pertinent, les questions de Serge Federer-Bush étaient très pertinentes. Je vais d'abord revenir un petit peu sur la question des héros, parce que c'était intéressant un peu de rajouter juste deux, trois petits éléments en termes de réflexion. Parce que c'est vrai que vous avez vraiment posé l'opposition entre la réalité des opérationnels, c'est que jamais ils se prennent pour des héros, et en fait vous pouvez l'avoir en modèle réduit dès que vous faites des sports de combat. Quiconque a réellement fait des sports de combat sait pertinemment qu'il y en a toujours une qu'on ne voit pas passer. Et jamais on va faire les malins à ce niveau-là. Et par extension, le feu tue, comme disait l'autre. On fait encore moins les malins devant les balles. Et c'est aussi les leçons de Lord of War sur le fait qu'une bastos tirée par un enfant de 10 ans est aussi meurtrière que celle d'un mortel, que celle d'un adulte, en fait. Et oui, depuis que l'homme a inventé la poudre, il n'y a plus d'hommes forts. On ne fait vraiment pas les malins. Ce qui était intéressant, c'était l'aspect... Seuls les morts ont vu la fin de la guerre, mais surtout, vous avez dans La Chute du Faucon Noir une leçon comme ça. À personne, personne ne se prend pour un héros, à personne il est vraiment demandé d'être un héros. C'est juste que parfois ça se passe comme ça.
On plaisantant qu'on est sur le fil du rasoir et que d'un côté tu peux être un héros et très vite tu peux être un zéro. Voilà, c'est notre phrase
sont très souvent marrante. Héros, en fait.
Et donc on ne fait pas les marioles parce qu'on sait qu'entre une intervention réussie et puis une échouée, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Et puis surtout comme on est opérateur, on ne peut pas raconter d'histoire, parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui te dire je sais ouvrir toutes les portes, j'ai fait une belle perf parce que je suis terrible, ouais. Et puis je vais être mis en échec la semaine d'après, et puis à cause de moi, il y aura des morts. Donc en fait, tu fais profil bas parce que tu sais que ça peut...
Jouer héros, ça porte malchance en plus. Par contre, ce qui est justement intéressant, c'est d'opposer d'un côté la vraie logique des opérationnels, où en fait, c'est une façon de penser qui n'a pas lieu d'être, en fait, parce qu'on n'est rien sans l'équipe, et vous le savez parfaitement, c'est intéressant ce que vous dites également. Pour un petit parallèle par rapport aux expériences grand public, le toucher de confiance, justement, c'est-à-dire quand vous parliez tout à l'heure de l'épaule, c'est intéressant parce que vous voyez ça dans les sports, par exemple collectifs, vous voyez toujours la façon dont on se rassérène les uns les autres, mais vous avez parfois des sports collectifs où on est toujours seul, exemple le volleyball, où on est toujours seul face à la balle. Il y a un rapport tout à fait autre à la confiance les uns par les autres, parce qu'on sait qu'on sera seul face à la balle. Et c'est intéressant de faire l'analogie. Bon, toute proportion gardée, évidemment, on n'est pas dans le niveau ops là. Ce qui est, par contre, intéressant, ce que je voulais pointer, c'est exactement ce que vous avez énoncé, en fait. C'est l'opposition entre la logique des ops d'un côté et la logique des politiques, qui peuvent en plus mettre la pression sur les ops, à la fois en prétendant les utiliser et en entendant les utiliser d'une façon totalement irréconciliable avec une réelle rationalité opérationnelle. Et ça, c'est un vrai sujet, et c'est le vrai sujet qu'on a vu d'ailleurs derrière ces affaires-là. On va revenir, je pense, sur les zones d'ombre de l'affaire Mera et du Bataclan, parce que c'est des vrais sujets pour Sarkozy à l'époque, pour Manuel Valls. Et dans cette équation-là, ce que vous dites est très intéressant, je vous l'avais dit exactement au mot près tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un moment où cette politisation des services ne redescend pas réellement. C'est-à-dire que du point de vue des opérationnels, les manipulations, elles se sont passées plus haut. Et le gros problème en réalité, derrière les questions que vous posiez tout à l'heure qui sont très pertinentes, M. Federer-Bush, c'est vraiment le fait que s'il y a une politisation quelque part, les opérationnels, au final, ne le sauront même pas, en fait. Et en filant un peu l'idée, c'est que la dépolisation... Je parlais tout à l'heure de la démilitarisation des populations civiles. Il y a aussi un gros problème. C'est la dépolitisation des opérateurs, justement, de l'armée. C'est-à-dire qu'on oublie, d'un point de vue, c'est une pensée très américaine, celle-là, on oublie que tout pouvoir civil vient d'une institution historiquement. l'armée. C'est ce que tu disais tout à l'heure au sujet de du fait que la noblesse, historiquement, ce sont des militaires qui, bien souvent, historiquement, la noblesse d'épée, ont défendu, ont été héroïques dans une certaine configuration et ont été anoblis pour cette raison-là. Et là, nous avons, en réalité, par suite d'un système politique qui est mal conçu, en tout cas qui donne la possibilité à des politiciens, en fait, on devrait plutôt appeler la politique le plus souvent la partisanerie plutôt que la politique. Parce que la politique, c'est le partage du gâteau, c'est une fonction noble à l'origine. Par contre, la partisanerie, c'est fondamentalement, si tu as raison, mais que lui est de mon parti, je vais lui donner raison contre toi. Et ça, à la longue, ça peut être l'effondrement
de l'organisation. C'est l'inverse de la méritocratie.
Exactement.
Tu vas être chef parce que tu fais partie du...
Le mérite et également parce que tu sais fermer ta gueule. C'est-à-dire que dans un contexte où tu sais être opérationnel, c'est pas moi plus que les autres, c'est moi et l'équipe, sinon je suis rien. Parce que, surtout à l'époque des armes modernes, on le voit encore plus avec la guerre d'Ukraine. Parce que justement, ça a révolutionné par certains égards la guerre. On voit à quel point elle est encore plus meurtrière. Et la guerre des tranchées à la papa avec des armes modernes, même les porte-plaques Zabralo tier 6, enfin la protection 6, elle est sur le plastron. Après, c'est du tier 2, tier 3 max. Ça fait réfléchir, en fait. Dans une culture très film, également dans les films, on voit la façon on peut tirer au Makarov à 50 mètres comme ça sans viser. N'importe qui a tenu une arme est bien plus humble sur ces questions-là, en fait. Et on voit vraiment le décalage entre la culture grand public, la politisation, là aussi en matière de renseignement, et les opérationnels qui, au final, sont compressés par une double culture qui, en réalité, est contraire à ce qui fait la civilisation. Ça serait juste pour rebondir là-dessus, ça va être ma première prise de parole là-dessus, mais c'est quelque chose qui est touchant, en réalité. Quand on voit cette différence, c'est quand on connaît la solitude des véritables opérationnels face à ça. S'il y a eu des magouilles, on ne le sait même pas, au final.
Oui, parce que nous, on a... on sait que les postes de commandement ont reculé. Voilà. C'est-à-dire qu'en 14, ils ont nettement reculé. C'est-à-dire que tu finis par être dirigé par quelqu'un. Tu peux pas avoir le même raisonnement quand tu es à 1 mètre d'une arme, quand tu es à 10 mètres, quand tu es à 100 mètres et quand tu es à 1 km. Et le problème, c'est que, et moi, à la toute petite échelle de 20 ans, les assauts que j'ai donnés en 98, on avait des officiers dans la colonne. En 2018, c'est différent. Les pyramides hiérarchiques ont été refaites. Donc, en fait, moi, je préférais être dirigé, impulsé, parce que après, dans l'intervention, nous, on n'est plus dirigé par qui que ce soit. Hein, parce que tu appelles pas sur ta radio, ah, bah, tiens, j'ai un choix entre à droite, à gauche, ou tiens, patron, est-ce que je tire pas? Bon. Mais en tout début, quand les dernières impulsions sont faites par un officier qui est avec toi dans la colonne, c'est préférable que quand il est à 100 mètres ou à 200 mètres dans les postes de commandement. Donc c'est un peu, ça en revient à ce que tu disais. Et quand les postes de commandement reculent, quand les impulsions stratégiques viennent de quelqu'un qui risque pas de prendre une balle du tout.
Absolument.
Elle risque de se politiser de plus en plus.
Le cas extrême, c'était, alors ça n'a rien à voir, et c'est une dimension historique, c'est Gamelin, qui était le général en chef de l'armée française en 40, qui n'a pas quitté pratiquement le donjon de Vincennes.
Mmh. C'est vrai, oui, c'est ça.
Il n'a pas quitté le donjon de Vincennes. Il a dirigé l'armée française, et on s'est pris d'ailleurs la raclée qu'on a malheureusement connue, avec un gars qui était à 200 km du front et qui était complètement isolé. Quoi.
Alors, ça pouvait se justifier pour la marine, mais pour l'armée de terre, c'était de la folie. La marine était gouvernée par Darlan depuis maintenant, et une fois qu'en Pétain l'avait, avant donc 40, l'avait inspecté, il lui a dit « Vous avez créé la seule chose qui marche dans l'armée française ». Quand on lit Roger Vibault et la façon dont l'armée en 1938, c'était Roger Vibault au fort de Marly du Trou d'Enfer au nord de Versailles, se fait accueillir par des soldats rouges chantant l'international et disant qu'ils allaient liquider leurs officiers, pas de problème. Pourquoi ils n'étaient pas nourris façon Potemkin? Là, on est en 38 et Roger Vibault raconte ça dans ses mémoires. C'est quelque chose d'hallucinant. Mais bon, ça c'est.
Mais d'un autre côté, c'est pas facile parce que tu peux pas demander à un dirigeant, un officier, d'être dans la colonne non plus. Parce que on a des rôles complémentaires. Mmh. Nous, on passe notre journée à tirer, à faire de la tactique. Ouais. Donc, lui, s'il a un autre rôle, à gérer les pompiers, à gérer les démineurs, à gérer les machins, bon, ben, voilà, les rôles doivent être séparés. Mais il faut pas trop que le rôle des postes de commandement empiètent sur le rôle de l'assaut. Et puis, Non, voilà, c'est pas si simple, quoi. Toi, suffit pas de mettre les chefs dans la colonne parce que ça marcherait pas non plus, hein, parce que c'est pas leur rôle, hein, c'est pas leur boulot, c'est pas leur entraînement, c'est pas leur. Et des fois, on mélange un peu tout parce que dans les Wikipédia, entre guillemets, on a l'impression que c'est le général qui a fait la guerre. Ouais. Hein, on lui dit voilà, et nous pareil, nos patrons, on leur dit bah oui, le fait d'armes, il a fait. Et t'as l'impression que c'est eux qui ont fait l'affaire.
Beaucoup d'abus de médailles après.
Alors que dans le sport, on fait pas ça. Hein. Sur le podium, c'est le sportif qui monte, c'est pas le président du club.
Complètement.
Bon, alors, dans la police et dans l'armée, comme l'opérateur est cagoulé et qu'il doit pas la ramener, ben c'est un peu nos chefs qui montent sur le podium. Et donc ça crée un problème, parce qu'après, face aux médias, eh ben ils vont raconter des anecdotes. Ils ont pourtant eux un rôle, hein, parce que tout le monde a un rôle, hein, de la secrétaire jusqu'à la logistique, jusqu'au grand chef. Tout le monde a un rôle, mais comme nous, on ne parle pas, des fois, on se fait voler nos histoires. Et si tout le monde reste à sa place, bah, c'est mieux et l'action...
Cher Olivier, on ne t'entend plus, là. Qu'est-ce qui se passe ?
Apparemment, c'est bien quand je parle pas.
On veut t'entendre, on veut t'écouter, là.
Non, c'est très bien, chacun son tour.
Monsieur a dit que sur le podium, c'est le sportif qui y va. Il arrive qu'il soit aussi le président de la République qui descende sur le terrain pour partager, même pas la gloire, mais enfin, vous voyez, enfin, on aura tout vu ces dernières années.
Hein. Pathologie.
Oui, pour réconforter le sportif ou autre. On aura tellement vu ces dernières années. C'est rien, d'ailleurs. Sur cette histoire du commandant qui est, enfin, de l'officier qui est dans le groupe, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que l'officier, bon, ben, il a un autre rôle et il faut qu'il ait un peu de recul. Mais je crois que c'est bon aussi que celui qui commande ait vécu ce que vous vivez sur le moment-là. Parce qu'effectivement, c'est facile d'envoyer les gens au charbon et compagnie. Mais quand la personne qui commande, qui vous dirige, a vécu les mêmes événements que vous, les mêmes émotions, je pense que c'est vraiment essentiel pour que ça se déroule bien également. Or, je connais pas la situation au RAID, mais on a l'impression d'une société en général où de plus en plus les dirigeants ne sont pas au front, quel que soit, je dirais, le secteur d'activité ou la discipline dans lequel on travaille. On a l'impression, vous irez même dans des banques ou dans des tas d'organismes, on va vous dire qu'on est dirigé. Les gens sur le terrain vont vous dire qu'ils sont dirigés par des gens qui connaissent pas la base, qui connaissent pas le métier et qui donnent des consignes comme ça parce qu'ils ont des objectifs qu'on leur envoie d'autres. Donc c'est un peu une tendance générale de la société d'avoir une espèce d'élite de commandement qui n'est pas au fait de ce qui se passe sur la base, et je pense que dans votre cas à vous, ce serait particulièrement dommageable.
Moi, je pense que le mot-clé, c'est confiance. Parce que on n'a pas le même boulot. Donc moi, je ne demande pas à ce que ma classe dirigeante, enfin ceux qui font l'aspect un petit peu politique, stratégique, tactique, viennent avec moi dans la colonne. Parce que de toute façon, ils n'ont pas l'entraînement, et puis moi, je ne saurais pas faire tourner non plus le poste de commandement. Mais par contre, et c'est pareil pour l'entraîneur et l'athlète, il faut que... Je parlais tout à l'heure de l'intérêt de la confiance entre nous, c'est-à-dire que... moi, il faut que j'ai confiance en la personne qui va rentrer avec moi dans la pièce, parce qu'on va se compléter. Eh bien, avec ma hiérarchie, même si elle n'est pas dans la colonne, même si elle risque pas de prendre une balle, si j'ai une pleine confiance, alors ça marchera, quoi. Mmh. Et c'est pareil pour notre politique. On aimerait avoir confiance en notre président, en nos ministres. Ça serait top. Mais pourquoi il y a une défiance? Pourquoi les gens vont plus voter? C'est sûrement une histoire de confiance, parce qu'ils ont été trahis plusieurs fois. C'est ça le problème. Et avoir confiance en chacun des maillons de la chaîne, bah c'est
alors,
nécessaire.
Alors là, je vais vous interrompre, je suis désolé, parce qu'au moment où on parle et on fait cette émission, j'apprends qu'il y a une fusillade, on parlait du Bataclan, il y a une fusillade à Moscou, dans une salle de concert, visiblement à Moscou, on parle de carnage, d'un nouveau Bataclan à Moscou. Voilà, donc je voulais juste apporter cette information. Alors, si des gens qui nous regardent en savent plus, peut-être, je sais pas, à la télé, bah, n'hésitez pas.
Quoi, c'est Tchétchène
Je sais pas du tout. Alors, on dit que, je sais pas, une salle de concert située au nord-ouest de la capitale russe, des inconnus ont ouvert le feu au Crocus City Hall. Voilà, au moins 70 ambulances sur place.
Il y a eu Gladio. Moscou,
pardon,
le théâtre.
Oui, bien sûr. Ouais.
2002, oui.
Et puis c'est alors, Poutine, chose, oui. Il y est allé, brutal.
Non, il les avait très bien gazés. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'ambulances à la sortie pour traiter les gens qui se vomissaient dessus après avoir été gazés. Mais les Russes avaient vraiment fait ça proprement. En phase finale, ils sont.
Voilà, il y a des tirs à l'arme automatique pendant 15 à 20 minutes. Voilà, donc bon, bah, c'est voilà, j'ouvrais une parenthèse.
L'actualité se confronte de façon extraordinaire à notre débat.
Il ne faut certainement pas croire que le calme relatif dans lequel on est depuis quelques années, de ce point de vue-là en France, est définitif.
D'autant plus que
je voudrais revenir un peu sur la question, bon, parce qu'on est sur géopolitique profonde, donc je suis désolé, je vais continuer à vous harceler avec la politique. Il se trouve que. J'ai écrit un bouquin après l'affaire Charlie, qui s'appelait La marche des Lemmings. Maintenant, ça voilà quelques années. Sur la récupération. D'abord, il y avait une petite partie sur ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, j'avais pris mon scooter et
juste un truc. J'ai déjà 12 morts à Moscou. Voilà, vas-y, continue.
Bon. Donc, ça risque de monter.
Ça risque de monter.
Donc, j'avais suivi le parcours avec mon scooter des frères Mera pour voir comment ils avaient pu échapper. Comment ils avaient pu échapper à tous les contrôles. Ils passaient rue de Meaux devant les commissariats de police, etc. Enfin, peu importe. Mais ce qui s'est passé surtout, ce qui m'a intéressé, moi, en tant qu'analyste politique, c'est la récupération. C'est-à-dire comment, le pouvoir politique qui a aussi en partie failli. D'accord, dans le renseignement et donc dans sa branche, ministère de l'Intérieur, va se débrouiller avec Hollande pour créer cette espèce d'unanimisme, le hashtag je suis Charlie, etc., etc., et avec la grande manifestation où tout le monde vient s'absoudre avec les gens qui sont derrière sans réfléchir au fait qu'ils étaient en train de donner un blanc-seing au pouvoir politique qui avait failli. Et là, on rejoint sur un truc qui a, semblerait-il, qui a en apparence rien à voir, mais sur lequel j'ai travaillé aussi, sur la façon dont le pouvoir politique va récupérer ses erreurs sur la crise du Covid et le fait de ne pas avoir réagi correctement au virus au départ par la mise en place de tout un système fondé sur la communication, d'attestation, de passe, etc., etc. Alors ma question est la suivante. Comment est-ce que vous réagissez, vous qui êtes sur le terrain, quand vous observez, si vous l'observez d'ailleurs, la façon dont des gens qui, finalement, dans leur ministère ou ailleurs, sont un peu responsables de la situation, d'accord ? Comment vous réagissez quand vous les voyez sans vergogne récupérer les choses par de la com, par de l'unanimisme, par des grandes manifestations, par du pass sanitaire, par des choses comme ça ? Est-ce que ça vous énerve pas un petit peu ?
Alors là aussi, on cloisonne. Nous, on a bien conscience qu'il y a deux mondes, c'est-à-dire il y a le monde des opérateurs. Moi, j'ai fait un livre d'opérateur, c'est-à-dire que pour moi, la police française a toujours été la meilleure des polices. On a commencé par les brigades du Tigre, on était en avant. Après, sur la police scientifique, on était en avant. Et voilà. Sur les affaires, par exemple, Mera, c'est 10 jours pour remonter à Mohamed Mera. Si vous regardez Khaled Kalkal, Émile Louis, Francis Aume, Pierre Chanal, Michel Fourniret, Thierry Paulin, ça c'est des années. Donc la performance pour trouver Mera, elle était brillante. Les Kouachi, c'est pareil, c'est 2 jours. C'est donc une perf, parce que là, il faut faire vite. C'est une fois qu'on rentre dans un temps d'enquête. C'est pour ça que nous, pendant 48 heures, on a participé à la chasse des frères Kouachi après les assassinats. Eh bien, on n'a quasiment pas dormi. Moi, je me suis allongé 2 heures, mais avec le téléphone et la radio, donc on n'a pas dormi. On n'a quasiment pas mangé et on n'a quasiment pas bu, parce qu'on réagissait. Donc nous, on sait qu'il y a deux mondes. Pourquoi ? Parce que de ce côté-là, on s'entraîne tous les jours, nos carrières sont longues, même si la mienne a été particulièrement longue dans la colonne d'assaut, j'ai fait 20 ans, mais en règle générale, c'est long. Et de l'autre côté, c'est différent. Parce que de l'autre côté, moi, je vous donne mon... C'est un autre monde, parce que moi, en 20 ans de raid, de 98 à 2018, j'ai connu 16 ministres de l'Intérieur. Et je compte M. Sarkozy qu'une seule fois, il est passé 2 fois. 16 ministres de l'Intérieur, ça veut dire quand ils sont sur l'immédiateté, c'est-à-dire qu'en moyenne, ça fait 1 an et 2 mois, eh bien, en bas de l'échelle, ça ne fonctionnerait pas. Parce que si je faisais votre métier pendant 1 an et 2 mois, je faisais boulanger pendant 1 an et 2 mois, pilote d'avion ou raideur, ça ne marcherait pas du tout. En haut de l'échelle, il semblerait qu'ils pensent que ça fonctionne. Mais donc, forcément, ils ont une mentalité différente et peut-être ils veulent que... comme ils ne sont pas installés dans le long terme, ils veulent que la récompense tombe vite parce qu'ils sont là qu'un an. Donc, ils vont peut-être brasser plus vite pour monter en médaille, monter en récompense. Enfin, je ne sais pas.
Mais d'ailleurs, il y a une chose qui est assez étonnante quand on réfléchit à la Ve République et qu'on dit assez peu, on dit toujours la stabilité, la Ve République, etc. Mais sous la Troisième République, par exemple, il y avait beaucoup de ministères qui tombaient assez fréquemment. Mais le personnel politique était
parfaitement stable.
Était beaucoup plus stable. Il y avait des gens qui restaient ministres de l'Intérieur, qui
revenaient. En fait, il n'y avait pas d'alternance.
Bon,
en
voilà.
Fait,
Et donc, il y a peut-être. Bon, l'exemple Macron aujourd'hui avec que des gens qui sont des espèces de semi-fonctionnaires ou des gens de. Qui viennent bon, d'horizon de com, etc., qui restent très peu de temps, qu'on oublie la vitesse à laquelle on oublie Elisabeth Borne ou Castex, c'est quand même stupéfiante. Elisabeth Borne, bientôt on va la croiser dans les rues de Paris, plus personne ne saura qui c'est, quoi. Elle était Premier ministre il y a 6 mois. Mmh. Bon. Et bien, en réalité, il y a un plus grand turnover dans le personnel politique aujourd'hui, dans la 5e, qui soi-disant est stable, que dans la 3e République.
Mais ça conduit à autre chose, c'est qu'au lieu que ce soit la stabilité, par exemple, des parlementaires ou des ministres en poste qui finalement changent, c'est un peu le jeu des chaises tournantes, la stabilité, elle est du côté de l'administration. Une administration qui a les clés en main et qui fait de l'obstruction face aux décisions politiques qui, normalement, doivent être souveraines. Et beaucoup, beaucoup de gens, par exemple, beaucoup de ministres, alors vous me direz, est-ce qu'on peut les croire, se plaignent que leurs instructions ne sont pas suivies, qu'il y a une obstruction systématique, dans certains cas, de l'administration qui refuse d'appliquer certaines consignes. Et finalement, la vraie stabilité, aujourd'hui, elle est dans cette administration qui est quand même assez tentaculaire, qui défend par certains points beaucoup ses prérogatives, et j'ai quand même l'impression que c'est pas une très bonne chose. Pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur un peu ces politiques qui sont des pompiers pyromanes, en quelque sorte, c'est-à-dire que tu...
Non, c'est des gens qui surfent sur des problèmes qu'ils ont partie créés, pas tous. Hein.
C'est oui,
pas,
bon, mais comme Hollande
c'est pas Macron qui a créé l'islamisme en France.
Non, c'est
mais
sûr.
Mais enfin, bon, on peut pas dire qu'il ait fait grand-chose non plus
pour
lutter contre ça aujourd'hui.
Et puis après, il pleurniche comme ça arrive.
Et puis qui, quand il y a des faillites, quand il y a des choses qui vont pas, et bien ensuite, la façon avec habileté dans laquelle ils arrivent à retourner avec l'aide des grands médias la situation à leur bénéfice. Mm-hmm. Bon, mais c'est la même chose, c'était la même chose pendant le Covid.
Mais tu as le cas typique aujourd'hui avec notre ministre des Finances qui prend.
Bah là, c'est pas un débat politicien, les gars.
Tout d'un coup, s'étonne la situation. Non, alors que c'est pour rebondir sur ce qu'il vient de dire.
C'est Bijard qui disait qu'il a mis 30 ans pour être général et 30 secondes pour être ministre.
Bah, c'est ça.
Donc voilà, mais le problème, c'est que 30 ans, t'acquiers une compétence. En 30 secondes, c'est limite.
Et il remarquait que de la brousse à la jungle, en fait, la jungle, c'était plus sympa que la brousse. Dans le contexte où la politique était bien plus tortueuse et rouée.
Mais est-ce que c'est le même métier d'être ministre il y a 40 ans ou aujourd'hui? Parce que l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 40 ans, on avait l'impression vraiment de ministres qui avaient quand même la main sur leur ministère, sur leur administration. C'était quand même d'autres personnalités. Alain Perfit, c'était une grande personnalité. Olivier Guichard, le général Bijard, je pourrais vous en citer 50. Raymond Barre, on est pour ou contre. Mais enfin, c'était des personnes qui étaient vraiment reconnues pour être des gens extrêmement brillants et qui avaient beaucoup d'autorité. Bon, quand vous les voyez aujourd'hui, ben vous avez l'impression qu'ils servent juste à répéter des éléments de langage qu'on vient de leur dire et de balancer des trucs de com pour réagir à l'actualité sur les plateaux. Donc c'est tout à fait différent, c'est plus le même métier d'être ministre dans les années 60 ou 70 et aujourd'hui. C'est bien dommageable. C'est bien dommageable. Et je pense que pour des gens comme vous, je sais que vous n'allez pas me répondre, bon, ou d'avoir à la tête... Finalement, qui vous dirige, ben c'est M. Darmanin, aujourd'hui. Bon, comme c'était M. Collomb il y a quelques mois, etc., etc., j'ai pas l'impression que vous y ayez gagné par rapport à M. Poniatowski, Bonnet, Pasqua, etc. J'ai comme l'impression...
Mais il a pas connu, hein, il a pas été policier sous Giscard, hein.
J'en ai connu 20. Hein. Non, 16, oui. 16 en 20.
Vous l'avez dit suffisamment en termes d'évolution, ce que vous avez déjà constaté.
Il a quand même connu M. Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, ou M. Pasqua.
Non,
mais pas comme policier. Mais au moins
mais là,
comme.
On parle de sa carte de policier.
Ce que je trouve qui est biaisé, c'est que souvent, prenons par exemple l'affaire Mera, eh bien, M. Sarkozy a pris 10 points. Dans l'affaire du Bataclan, alors il était en bas donc ça n'a pas suffi, mais dans l'affaire de l'hypercachère, M. Hollande a pris 15 points.
Ah, oui.
Et c'est ça le problème quand même un peu, parce que tu te dis, mais comment les gens votent, quoi, parce que 15 points c'est beaucoup, quoi. Et donc après tu te dis, peut-être ça pousse nos ministres et nos présidents à avoir envie que ça se passe mal, parce que puisque les guerres, les conflits rapportent des points.
Leur profit, oui.
Alors tu te dis, peut-être, est-ce qu'ils vont
Enfin, on voit ça, c'est un débat que vous avez dans vos unités ?
Au bout de 5 bières.
Mais oui, mais vous en parlez, j'imagine que vous en parlez.
À l'entraînement, voilà, c'est sérieux, voilà. Mais bien sûr qu'après, au bar, on se plaint de ça. Parce que, voilà, mais...
Mais c'est important ce que vous dites. Ça veut dire
c'est très important.
Ça veut dire que vous-même... Je ne veux pas dire que vous n'avez plus confiance dans votre hiérarchie, mais il vous arrive de douter. Arrive de vous demander si finalement les politiques, par intérêt, ou par laisser-aller, peu importe, ou par espèce de complaisance ou de démagogie, ne vous envoient pas à l'abattoir. Parce que moi, c'est comme ça que je le ressens.
Oui, c'est ça.
Alors, et vous le ressentez, vous aussi.
Prenez la parole, mais j'aimerais quand même que vous soyez concis dans vos interventions. Vas-y.
On va revenir justement à cette question politique. Tu veux parler,
non ? Non, vas-y.
Non, non, c'était...
Vas-y.
J'avais très peu parlé.
Une blague, en fait. Une blague vis-à-vis
De Mike.
Pas de souci.
Il y avait quelque chose d'intéressant sur le... Enfin, je vais essayer de relier justement, et on va revenir à la politique, et je voudrais vraiment par la suite passer justement sur certaines absolues incohérences du djihadisme international. Mais ça va seulement venir après. Ce qui était intéressant tout à l'heure, c'était que l'éloignement des chaînes de commandement, et on va venir après sur la politisation, crée l'inverse de ce qui a été un principe napoléonien récupéré par les Prussiens, c'est-à-dire l'Austro-Tractatik, c'est-à-dire en fait un principe napoléonien. Napoléon n'a jamais écrit de traité militaire, mais il disait quelque chose qui résume tout. Un officier qui exécute bêtement un ordre, sachant, venu du haut, sachant que cet ordre va amener des morts inutiles ou la destruction de son unité, est un criminel. Ce principe-là était à la base de l'Austro-Tractatik des Prussiens, c'est-à-dire le principe que, au contact de l'ennemi, on a une liberté d'initiative, en plus comme en moins, en fonction de la question de savoir si l'ordre que l'on reçoit est cohérent par rapport à la situation donnée ou pas. Et ça, c'est un principe qui est contraire aux stratèges du bureau, qui vont dire 1 égale 1 égale... comme si c'était absolument... Comme si le commandement était linéaire. Alors qu'au contraire, ce qu'on appelle le coup d'œil du chef, ou l'instinct est différent de ce qu'un général va éloigner, va donner. On a vu en plus avec, en Ukraine, le fait qu'on peut être tapé de très loin avec des missiles longue portée d'une façon ou d'une autre, ça complexifie encore les choses. Et... Il y avait le père des forces spéciales, historiquement, c'est Otto Skorzeny, dans l'opération de libération de Mussolini au Grand Sasso. Il était à la tête de ses hommes, et la consigne, c'était « personne ne tire tant que moi, je n'ai pas tiré ». Et il a libéré, en l'occurrence, Mussolini, sans tirer un seul coup. Mais historiquement, c'est intéressant, justement, sur cette véritable qualité de chef qu'on suit n'importe où, parce qu'on sait qu'il est fiable, et après, l'importance de la confiance dont vous aviez parlé tout à l'heure. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, on fait la transition à partir de Bijard, quand il constatait que le relationnel, et on a la même chose, par exemple, dans Gladiator, c'est-à-dire que tous les opérationnels savent que la confiance opérationnelle n'a rien à voir avec les bisbilles politiques et la façon dont toutes les mille et un coups de tute qu'on peut voir en politique, et d'où, et ça c'est une phrase historique de l'histoire de France, que Rome prenne garde à la colère des légions. Ça c'est vieux comme la Rome antique, c'est vieux comme la fin de Néron qui fait liquider le général Corbulot et qu'après ça se passe très mal pour lui, mais on a tout un enchaînement aujourd'hui qui, en fait, il y a une pourriture potentielle de tout système politique, notamment quand on laisse entrer des gens qui n'ont pas un arrière-plan opérationnel. Par exemple, la suppression du service militaire, le fait qu'aujourd'hui, tenir une arme... Mesurer la responsabilité, rien que quand on est au stand ou en situation d'entraînement, on sait très bien que dès lors qu'on a une arme chargée, la responsabilité, c'est vraiment plus que métaphorique. Et à partir de là, toutes les prises de conscience civilisationnelles, dans les années 70, encore en France, Manu France, on avait des armes, on avait une culture d'armes en France, le fait de retirer ça d'un côté, mais sur Netflix, de leur donner énormément de culture de violence, crée vraiment des dissonances cognitives, et quand on fait rentrer n'importe quel opérationnel en politique, moi j'appelle ça des gibiers pour lobbyistes. Vous savez, les pseudo-parlementaires qui... se voient investis d'une mission alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose sur pas grand-chose, mais on leur demande de légiférer. En réalité, ça facilite la corruption d'une façon ou d'une autre. Mais quand la corruption monte en haut, on a la situation actuelle et le problème...
J'aimerais que tu conclues.
Oui, c'est terminé.
Ah bon, justement. Ok, très bien.
Nous, ce qu'on demande à notre hiérarchie, ce n'est pas une compétence technique et tactique, parce que c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que dans l'appartement, on ne reçoit plus de consignes. Donc ce qu'on leur demande surtout, c'est... On aimerait avoir confiance, on aimerait qu'ils nous aiment et qu'ils nous protègent. Qu'ils nous protègent quand on a un problème, qu'ils nous protègent aussi, qu'ils protègent un peu notre carrière, c'est-à-dire qu'ils arrivent à nous donner des grades, et, etc. La protection, moi je l'ai vécue, c'est-à-dire que ces dernières années, on a senti un deuxième risque. C'est-à-dire que le risque physique a été exponentiel. Parce que oui. Maintenant arrive l'explosif, arrivent les pièges à l'explosif. Donc, je vous ai parlé des Kalachnikovs, des grenades, de l'explosif et même du lance-roquette. Donc le risque a été... Et ça, nous, c'est notre métier de le gérer, même si ça devient compliqué avec l'explosif. Mais ce qui est plus difficile à supporter, c'est qu'on a un deuxième risque qui a gonflé de manière exponentielle, c'est le risque juridique. C'est-à-dire aujourd'hui...
Racontez-nous.
L'absence de protection.
Qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver facilement... Bon, on avait cette culture-là, parce qu'en 2003 déjà, lors de l'affaire de Neuilly, la libération des enfants... 93, excusez-moi. Notre commandant, enfin celui qui a ouvert le feu sur Schmitt, sur le terroriste Human Bomb, alors que tous les voyants étaient au vert, puisque, voilà, il n'y avait pas ce quoi... Enfin, tout était au vert, opérationnellement, il n'y avait pas de... Mais il y a quand même eu une polémique, parce que le syndicat de la magistrature était déjà là, et il y a eu une polémique, ils ont fait écrire un livre... Bon, toujours est-il que celui qui a fait son boulot comme il fallait s'est retrouvé aux assises. Ouais. Et nous, un homme du raid, quand tu te retrouves aux assises, ce n'est pas un homme du raid qui se retrouve aux assises, c'est ton prénom, ton nom, tu n'as plus la cagoule. Parce que tu assumes le jugement. Donc, il s'est retrouvé aux assises. Ça veut dire quoi, les assises? Ça veut dire 5-6 ans au minimum de problèmes, d'effets de Damoclès au-dessus de la tête. Et ça, on avait déjà été...
Sociales.
Oui, et puis, je veux dire, tu te retrouves... Au tout début, il a été désigné comme un héros, encore une fois, par la maternelle avec sa fille, etc. Mais très vite, il a été considéré comme quelqu'un qui tuait quelqu'un, les gens qui dorment, enfin, etc. Il y a eu toutes sortes de fantasmes phénoménales. Et donc, il s'est retrouvé en danger juridique. Et c'est un problème, parce qu'après, tu as toute la population qui te désigne comme un tueur, etc. Et ça pose des problèmes personnels, familiaux.
Toute la population contre lui.
Non, mais dans les journaux.
On voit comme la
population
passe par les médias.
Alors donc, cette affaire...
C'est le microcosme médiatique et une certaine gauche qui en a fait un coupable, alors que beaucoup de gens dans la population savent bien qu'en réalité, c'est un héros.
Ce risque juridique, il nous pose problème, parce qu'à un moment donné... mais ça descend pas qu'au raid, ça descend dans les bacs, partout où il y a une confrontation, et même encore plus dans les bacs, sûrement, parce qu'ils rencontrent des situations qui sont encore plus vastes, hein, et voilà. Et ce risque juridique, si déjà tu sais que tu risques ta peau, mais que tu risques aussi ta carrière, et que tu risques d'être traîné en justice pour quelque chose que tu as fait... Bon, on en parle aujourd'hui avec les délits de fuite, etc. Donc, le risque juridique, ça, c'est plus difficile à avaler, parce que tu sens que tu n'es pas protégé par ton instance directe de direction, mais aussi par les politiques et par la justice, qui devrait normalement faire partie de la même chaîne. Bon, mais si t'es menacé à l'intérieur du système, t'es pas à l'aise.
Alors sur ce dernier point, je suis quand même pas trop pessimiste, parce que je pense qu'il y a une évolution de l'opinion quand même, qui est de plus en plus favorable au fait qu'il faut être ferme face à toute la racaille, en particulier aux terroristes. Ça, bon, donc je pense que les risques en matière pénale vont en s'atténuant.
C'est pas la population qui juge, hein.
Oui, mais certes, mais il y a d'autre part quelque chose qui devrait être assumé dans ces cas-là. Je suis désolé, mais le chef de l'État a le droit de grâce. S'il y a une bande de... Bon, et puis en plus, maintenant, on peut faire appel des verdicts des assises. Et donc, d'abord, le ministère public peut faire appel pour retrouver un autre jury, si le jury a été influencé pour des raisons locales par telle ou telle considération. Puis deuxièmement, le chef de l'État, il a le droit de grâce. Et il assume politiquement le fait de gracier des gens qui auraient été condamnés.
Rien que le fait d'être aux assises, enfin, c'est normal.
C'est ça, à la fin des fins. Le rôle du chef de l'État, c'est ça.
Le fait qu'on enlève l'anonymat d'un policier du raid...
Français, je pense pas que le peuple français désavouerait ou...
Non, c'est sûr.
Mais bon, t'enlèves l'anonymat d'un policier du raid, tu le mets en danger.
Mais tu peux, non, oui, mais enfin, il y a des procès d'assises qui peuvent être faits aussi sous huis clos. Hein. Donc, ça, c'est aussi à la question.
Ça n'a pas été le cas. Et puis même la contrariété du gars, tout le temps.
Bien entendu. Mais si les gens sur le terrain savaient qu'il y avait un backing politique vertébré pour les protéger, ça se passerait différemment.
C'est sûr.
Alors, je voudrais revenir sur
le... Pas,
puisque nos chefs d'État vont voir les...
Évidemment, mais ça, c'est un problème politique. Mais un jour, ces chefs de l'État, ils recevront un gros coup de pied au cul du peuple, j'espère, et qui les ramènera à ce qui mérite.
C'est un peu simpliste, toi, ce que
tu dis. Mais oui, mais moi, je vis dans le simplisme. Qu'est-ce que tu veux ?
Vas-y, continue.
Mais en tout cas, je crois qu'à la fin des fins, un peu de simplisme, en tout cas de réaction saine, pourrait avoir une certaine utilité. Mais sur la question politique, je reviens toujours à cette question politique, c'est quand même pervers. C'est quand même pervers. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'il y avait de la récupération. Ça, c'est vieux comme le monde, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai appris un jour quelque chose qui m'a quand même beaucoup fait réfléchir. Quel est le bureau de vote en France où Le Pen, face à Macron, a fait son plus bas score ?
J'imagine.
C'est le score où c'est le bureau de vote le plus proche du Bataclan.
Arson.
Voilà. C'est-à-dire qu'on voit, alors je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, si c'est les bobos du 11e arrondissement, et bon, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ceux qui, géographiquement, ont eu le nez le plus sur le problème, parce que ça a quand même canardé, hein, ça a dû faire du bruit.
C'est sûr.
Voilà. Et bien ces gens-là, au premier scrutin politique important, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils luttent contre la bête immonde, ils vont voter Macron.
Et Hidalgo.
Et voilà, et Hidalgo. Enfin bon, c'est quand même... Il y a de quoi réfléchir, c'est quand même très grave.
Oui, mais alors,
ça prouve qu'il n'y a pas, que, bon, au moins l'électorat, même dans sa proximité la plus importante, là, bon, la plus directe, eh ben, on ne tire pas les conséquences de ce qu'il voit.
Oui, mais
alors, quel est le facteur de cette situation ? Alors, je ne sais pas, on ne va pas trouver la solution entre nous, hein, la réponse, mais c'est quand même assez
vertueux. Attends, Olivier, laisse répondre.
Parce que je pense que la formation... On ne donne pas aux gens les vraies informations, point. Moi, je m'en rappelle bien en 96, donc, moi, je n'y suis pas arrivé. En 96, je n'étais pas encore là, je suis arrivé en 98. Mais 96, lors de l'affaire de Roubaix, c'est mieux de remonter à 96, comme ça, on donne des noms qui ne sont plus en place. Mais il se passe la même chose exactement aujourd'hui. En 96, le ministre de l'Intérieur affirmait que, et c'est encore dans les archives INA, que ce groupe terroriste était un groupe de droit commun, c'est-à-dire des braqueurs lambda, et pas des terroristes islamistes. Voilà. Parce qu'il ne fallait pas dire à l'époque ça, alors qu'on savait de nous très bien. Hein.
Bien sûr.
Après, les journalistes, on les ont appelés les ch'tis d'Allah, etc. Donc, on savait très bien qu'ils étaient liés même à la filière algérienne et la filière bosniaque. Mais... la version officielle, c'est des droits communs. On l'a revu après, lors de l'affaire Mera, où on l'a très longtemps appelé le tueur au scooter, le loup solitaire, enfin des mots un peu poétiques, et voilà, pour pas dire ce qu'il en était. Et on continue aujourd'hui.
Vas-y.
Pour revenir sur ce que disait Serge, puisque tu as l'air étonné de ce phénomène, moi aussi je partage cette curiosité, mais en fait... il faut bien voir qu'est-ce qui a été promu à la suite du Bataclan. Quel est, le parent de victime qui est devenu auteur, qui a été mis en exergue ? C'est celui qui a écrit
vous
le livre
«
Vous n'aurez pas ma haine ».
Bien sûr.
Monsieur Jardin, qui lui est dans une attitude beaucoup plus, à mon avis, réaliste et qui confine effectivement une forme de vengeance, mais que je comprends parfaitement, lui, on l'a mis de côté. Donc, on a profité, je dirais, de cet événement, non pas... pour mener une guerre face à un ennemi désigné, comme on n'a pas été capable même à ce moment-là de désigner l'ennemi. Au contraire, on nous fait croire qu'il n'y a pas d'ennemi, qu'il y a quelques méchants.
C'était même le thème de mon livre. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne ? C'est ça qui est très important.
Tout simplement parce qu'il y a une pression médiatique et sociale.
Certes, mais
et les gens préfèrent s'identifier à ça, de dire ah oui moi mais j'ai bien. J'ai vécu ça, mais voilà, c'est fait plus chic.
Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ?
C'est la peur. Juste un dernier mot, c'est la peur que ça recommence. C'est la volonté de ne pas voir le danger en face. C'est la tête dans le sable, quoi. C'est l'attitude de la tête dans le sable. Et plus le danger augmente, plus on se met la tête dans le sable.
C'est même une forme de snobisme.
Vous êtes d'accord avec ce qu'il se dit ?
Ben, on l'a tous vu, quoi, que c'était encouragé de... l'action de mettre des fleurs, de faire des poèmes, de mettre des bougies,
ça c'est bien joli, mais bon,
par rapport au fait de vouloir réagir, essayer de trouver des solutions,
au fait de vouloir réagir. Mais pour reprendre un autre exemple, moi j'avais fait un article il y a 2-3 ans sur Louboutin, les chaussures Louboutin de grand luxe, qui avait pris Assa Traoré comme emblème. Mmh. c'était elle, l'égérie de Louboutin. Alors les gens se demandaient, mais enfin, ils ont trouvé que celle-là, au lieu de prendre un mannequin ou une actrice ou autre. Mais oui, parce que le crème du snobisme, les gens qui achètent Louboutin, c'est pas des gens, je dirais, c'est des gens d'un certain niveau social, et qui souvent essayent de se distinguer du peuple. On se distingue du peuple en le méprisant à travers une égérie qui crache sur le peuple français toute la journée. Et donc, en quelque sorte, celui qui achète Louboutin, il va dire, ben moi, je suis pas du peuple, je crache sur le peuple avec Madame Traoré. Et ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est quelque chose qui ressemble à ça.
C'est en grande partie,
voilà, moi, je suis pas comme le peuple qui vomit sa vengeance. Moi, je suis au-dessus de ça et je crois à la grande fraternité humaine de trucs.
Mais je pense que ça va s'arranger parce qu'ils ne veulent pas voir. Bon, ils veulent pas voir qu'on est dans un corridor où ça s'arrangera pas. C'est ça le fond du problème.
Mais il y en a de moins en moins qui ne voient pas.
Hein. Oui, oui. Ce qui a été déterminant, d'ailleurs, un dernier point, ce qui a été déterminant dans la prise de conscience vis-à-vis de tous ces problèmes, curieusement, c'est pas tellement, je crois, les attentats ou le Bataclan, etc. Ce qui est, moi, j'ai senti l'opinion basculer assez récemment, c'est quand il y a eu toutes les émeutes en banlieue et les magasins qui ont flambé partout.
Oui, oui, c'est vrai.
Là, parce que là, c'était sous le nez de tout le monde. Là, c'était la boutique au coin de la rue. Là, c'était pas l'espèce de... pas de fait divers, entre guillemets, mais le truc qu'on a du mal à connecter avec un vrai mouvement social.
C'est-à-dire que les gens ont vu que ce n'était pas des cas spécifiques de gens extrémistes et jusqu'à boutistes, mais même le petit jeune du coin qui devient fou et qui fait n'importe quoi.
Ou qui va chercher à servir.
Est-ce que sur des actions pareilles, leur aide peut intervenir? Tiens, par exemple, sur les émeutes comme il y a eu en juillet.
Alors, on l'a fait un petit peu. On l'a fait un petit peu lors des émeutes de 2005, lors de 2007. On n'est pas vraiment fait pour ça, mais on a apporté assistance. C'est-à-dire qu'en règle générale, nous, c'est assistance à police judiciaire. On fait les 6 heures du matin, mais on fait parfois des assistances de protection et sur les fameuses. On n'est pas vraiment équipé pour ça, mais on le fait un petit peu. On a fait des astreintes pour, mais on le fait un petit peu. Mais en tout cas, pour revenir sur les fleurs, les bougies, c'est justement l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour être performant, il faut se concentrer sur la technique et pas sur les émotions. Et là, par contre, en forçant les gens à aller sur le plan émotionnel, c'est pas constructif d'aller sur le plan émotionnel. Il faut se concentrer sur la technique pour trouver des solutions. Et justement, quand on détourne les gens sur l'émotionnel, eh bien, on sait qu'on trouvera pas de solution en allant de ce côté-là. Alors on a fait à Villiers-le-Bel, on a fait des renforts, on a fait des renforts à Lyon. Voilà, on cherchait à trouver les gens qui allumaient les voitures. Mais voilà.
Alors, tu conclus, mais vraiment rapide, parce qu'après, c'est ton édito.
J'ai très peu parlé sur un sujet aussi important. Là, on va essayer de résumer vraiment à l'extrême. Il est absolument clair que nous avons au sein de la justice et des médias une ribambelle de traîtres. Ça s'appelle de la subversion sociétale, c'est pas un hasard. C'est prémédité depuis des décennies. Nous avions en 2010 un article dans Le Point qui disait « Aujourd'hui, le flic est un sous-citoyen ». Mon père est ancien flic, mais c'est surtout « Lorsque vous détruisez les facteurs d'ordre dans une civilisation, c'est que vous avez intérêt à vouloir la détruire ».
C'est ça.
Ça ne s'autodétruit pas tout seul. Le migrant n'est pas automoteur, le terrorisme, après c'est encore un autre narratif derrière, mais au moins au sein de la justice, c'est absolument allégué. On a notamment Georges Fenech qui le dit assez régulièrement. On sait très bien la culture de la destruction de la justice par des magistrats rouges et le fait de considérer un policier qui tue dans l'exercice de ses fonctions comme un n'importe quel justiciable, pardon, c'est anti-étatique. C'est l'exact inverse de l'État en tant que structure de protection du peuple. Ça serait pour clore ce débat-là. Sur l'émotionnel, il y a deux émotionnels. Il y a l'émotionnel nounours, l'émotionnel haineux. En réalité, les vrais opérateurs traîtres. Une histoire de châtiment. Il y a une différence entre... C'est ce que connaissent tous les opérationnels. C'est-à-dire que la haine ou les émotions en trop quand on vient de perdre un camarade, c'est là où on fait des conneries, c'est là où on est moins professionnel. Au contraire, il s'agit de rester absolument focus sur l'action et réellement professionnel. On traite la menace. Et il y a plutôt une ambiance, là, c'est de la culture pareil américaine. Pourquoi derrière les réseaux sérieux, pro-Trump et compagnie, on encense davantage le Punisher que le nounours? Parce que le Punisher, c'est juste celui qui punit. Et d'un point de vue de la légitimité étatique, c'est juste du bon sens. Mais c'est en ce sens que ni la haine ni les nounours ne sont utiles. Il s'agit juste d'aller là où il faut aller, face à des gens qui prennent leurs responsabilités, pour citer l'un des anciens commandants du GIGN, justement. Je voudrais faire un dernier rebond hyper important, parce qu'au final, nous n'en aurons pas parlé aujourd'hui. Mais par exemple, les énormes zones d'ombre derrière l'affaire Mera, notamment, En fait, Mera avait été baladé, il avait fait tout l'itinéraire du parfait petit djihadiste. Il avait été interrogé par un officier américain en Afghanistan, par un officier de l'ISIS pakistanaise également. Il avait voyagé un peu partout, en Libye, au Turkménistan, même en Israël, où il avait été arrêté avec un couteau sur lui. Alors qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été connues. Il avait donc un passeport avec tout ça. Ça aurait dû interpeller. Il était même interdit de vol aux États-Unis. Il y avait beaucoup de choses qui étaient connues. Et lui-même, en fait, la thèse alternative qui a fuité notamment, dans le contexte notamment des sources algériennes et italiennes, c'est que Mera, en réalité, était le contraire de ce qu'on en a dit. Dès 2007, il avait été arrêté par la police française, il avait été relâché pour, justement, motif de sûreté d'État. Tout ça a été documenté. Il y a eu pas mal de guerres interservices, il y a eu pas mal de guerres intermédiatiques, justement, faisant sortir ces éléments-là. Derrière l'affaire Mera, il n'y avait pas que ce qu'on nous en a dit, et le loup solitaire qui fait tout n'est qu'une thèse parmi d'autres, en tout cas la thèse la plus évidente pour la plèbe. Après, l'utilisation politique pour Sarkozy, c'est clair qu'on voit très bien que ça lui a profité, mais il n'a pas été réélu pour autant. Par contre, il y avait des précédents autres. Néanmoins, dans ce contexte-là, il y avait une grosse suspicion d'affaire Gladio, dans un contexte où on pouvait avoir une version complètement autre, où c'était en fait un djihadiste, non pas un djihadiste, mais lui-même avait incriminé l'un de ses soi-disant amis, qui était en réalité un officier traitant. En tout cas, il avait dit des choses qui pouvaient nous faire entrevoir un autre scénario.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il aurait été lui-même dans un contexte traité par les services français et se serait aperçu à la fin du fait que beaucoup de choses étaient bizarres autour de lui et qu'en réalité, il nous racontait ce qui a été bien plus connu de façon concernant des éléments djihadistes autres, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et là c'est de la vieille expertise française, c'est que le djihadisme international a historiquement été traité par les anglo-américains, surtout historiquement, puis par extension, par certains égards, les anglo-américano-israéliens, mais qu'il n'y a pas de génération à spontanée du terrorisme, et par contre les réseaux des anciens vétérans d'Afghanistan qui ont agi par la suite dans les Balkans et dont on a retrouvé des prolongations dans les réseaux Gladio, y compris en France, ça serait plutôt le sujet. On le sait, par exemple, que ce sont les anciens soi-disant vétérans d'Afghanistan qui étaient importés par la CIA pour faire des massacres absolument terribles, pour provoquer les Serbes qui réalisaient des contre-massacres, et après on disait que c'était la faute des Serbes. Là, c'est une autre affaire qui est notamment narrée dans le livre « Le charme discret du djihad » dont j'ai parlé. Ça serait vraiment le gros sujet d'ouverture, merci de le rappeler, à ce sujet-là. Parce que c'est de la vieille expertise française. Nous avons été les premiers, en 1930, Xavier de Hauteclocque, cousin du maréchal Leclerc, à dénoncer le fait que les Britanniques créaient, dès cette époque-là, des djihadistes pour les envoyer contre notre
ancien. En Afghanistan.
Alors, voilà, j'aimerais vraiment que tu conclues pour ton édito.
Ça sera juste l'élément d'ouverture en arrière-plan. Voilà. Très bien. Et peut-être qu'il y aura un lien avec mon édito, ça sera la surprise.
C'est une réponse, peut-être.
Bah, plus qu'un complot, moi je vois une impuissance à suivre et à punir. Mohamed Merah, c'est 15 condamnations avant sa première peine de prison. Donc 15 condamnations, ça veut dire combien de délits? Même moi, je ne sais pas, quand on vole une voiture, combien faut en voler pour être pris par la police? Je ne sais pas si c'est 3, je ne sais pas si c'est 10, déjà, je ne sais pas si c'est 100.
Il y a eu deux Algériens sous OQTF qui ont fait 6 cambriolages en 2 mois dans le Val-de-Marne et qui n'ont jamais fait un jour de prison. Ça fait 6 fois qu'ils se font prendre.
J'aimerais qu'on conclue, je suis désolé parce qu'on est en retard. Donc on va passer à l'édito de notre ami Jean-Maxime Corneille. Mais avant ça, les petites annonces.
Envie de lire un magazine rentable? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.
Merci à vous d'être toujours si nombreux. Nous sommes avec Marc Veriot. On a un débat vraiment passionnant pour son dernier livre, voilà, Au cœur du raid. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde, spécial Bitcoin. Vous avez les articles d'économistes de renom type Philippe Perlin. Le lien est en dessous en description. Allez-y, n'hésitez pas à vous y abonner. Alors, cher Jean-Maxime, de quoi tu vas parler aujourd'hui ?
Alors, je vais parler d'un hommage qui a eu lieu dans Versailles Magazine en février-mars 2024, justement, à Samuel
Versailles Magazine, il fallait vraiment trouver l'article.
C'est drôle, justement, qui rendait hommage à Samuel Sandler, parce que c'est le père des victimes, justement, de l'affaire Mera, des enfants juifs qui ont été assassinés, et qui, justement, étaient connus à Versailles, et qui a vécu des drames personnels dans sa famille, la Shoah, et surtout cette affaire de Toulouse, et donc auquel on rendait, justement, hommage dans un certain contexte, parce qu'il était actif à Versailles. C'était intéressant de voir que lui, celui qu'on présente à bon droit humaniste, s'est tourné vers les autres, qu'il ait été à ce point victime. C'était donc incidemment ce qui va initier ma chronique. C'est que nous avons eu donc cet hommage là rendu qui a rappelé cette affaire Mera dans un certain contexte. Et là, je vais vraiment la chanter parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Je voulais juste revenir en quelques mots sur le mauvais procès, sur la passe d'armes qui avait eu lieu à partir de fin 2019 entre BHL d'un côté, Bernard-Henri Lévy, et Éric Zemmour sur justement ces questions d'hypocrisie d'une part et de justesse dans les propos de Zemmour dans un certain contexte justement 2019-2022 où BHL essayait absolument de nous vendre une tradition française fasciste, une héritière de l'idéologie française, c'est son délire à lui. Et de l'autre côté, Zemmour était... Bon, il y avait aussi une façon de faire monter Zemmour en tant qu'homme plus capable que le FN, mais ce que disait Zemmour était frappé sous le du bon sens par bien des égards en termes de le diagnostic des causes que lui est quasiment le seul à faire depuis longtemps en tout cas. Et on voyait bien la surenchère d'agitation propagandaire binaire de la part de BHL qui faisait parler à un ami à lui, François Heilbronn, pour dire absolument que Zemmour était nécessairement FNiste alors que bien des diagnostics étaient justes. Je ne vais pas développer là-dessus, mais c'était intéressant de voir cette opposition binaire dans le contexte pré-présidentiel 2022. Et de considérer que parce que Zemmour disait certaines choses, il était haineux, et ça fait partie justement de la rhétorique dont on parlait, c'est-à-dire la rhétorique abusivement médiatique, abusivement castratrice, lorsqu'il s'agit de nommer un chat un chat. Donc ça, c'était le premier point. Et dans ce contexte, BHL faisait monter François Heilbronn sur son blog La Règle du Jeu pour dire que Zemmour avait ainsi insisté... en fait, c'était une polémique qui avait été faite chez Ruquier. Dans une émission, c'était, on est en direct, fin 2021, en septembre 2021, où on avait reproché à Zemmour d'avoir osé faire le parallèle et de se demander pourquoi les uns étaient enterrés en Israël, les autres étaient enterrés en Algérie, mais qu'il y avait quand même, d'un point de vue anthropologique, il y avait une question à se poser. Et à ce titre-là... François Heilbronn, donc ami de BHL, lui avait dit qu'il avait ainsi insulté la mémoire des victimes et que ça n'avait pas lieu d'être. Par contre, il y a vraiment une volonté de fermer la fenêtre d'Overton pour qu'on ne s'interroge pas quant aux causes des causes, surtout en l'occurrence contre Zemmour, qui, lui, ne osait les dénoncer dans ce contexte-là. Et en fait, il y avait derrière cela, comme une nervosité, une volonté de contrôle d'un certain narratif, avec un côté signalement de vertu, genre BHL lave plus blanc que Zemmour, mais le lien avec justement l'affaire Mera, quand il citait justement l'insulte à la mémoire des victimes du terrorisme, pour bloquer justement toute espèce de contestation sérieuse, devait nous interpeller. Et donc, ça nous donne là l'occasion d'évoquer donc l'affaire, donc de nouveau l'affaire Mera, avec une même volonté de contrôle du narratif qui était suspecte par bien des égards. Lorsqu'il y avait on voit que Mélenchon également avait été attrapé au vol quand il parlait d'une curieuse synchronisation opportune des actes terroristes, notamment en période de présidentielle ou autre. Et Mélenchon avait été menacé par Patrick Klugman, l'avocat de Samuel Sandler à l'époque. On sentait en tout cas qu'il y avait une nervosité quant aux questions gênantes derrière l'affaire de Toulouse. Là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc toujours pareil, Samuel Sandler à l'époque a été recyclé dans une opération d'agitprop contre Zemmour dans ce contexte-là. Comme si, et donc Samuel Sandler disait qu'il avait très peur pour la communauté juive à cause des positions de Zemmour, alors que Zemmour était justement en train de dire qu'il y avait quand même des problèmes, qu'il y avait une irresponsabilité de certains juifs de gauche qui participaient à une immigration dont ils savaient très bien qu'elle avait des conséquences par la suite. Ça, c'était vraiment, encore une fois, la logique d'agitprop et le contrôle médiatique dans un sens subversif, ce qu'on appelle la subversion sociétale, aurait été donc la bonne question en réalité, parce qu'elle revient régulièrement. À ceci près que Zemmour commet cette erreur de ne l'attribuer qu'à l'islam, alors que la mémoire de notre ancien empire colonial savait que l'islam était au contraire un facteur de civilisation. En revanche, le djihadisme était une création historiquement artificielle. Ceci aurait dû éveiller notre attention. Toujours est-il que cet agitprop a été vraiment tressé en épingle pour, de fait, compromettre et incapaciter Zemmour dans le contexte des présidentielles 2022. Mais on a vu une autre hypothèse de travail survenir justement à l'occasion derrière cette affaire Mera. Une autre piste concernant cette affaire Mera, c'est que la femme de Samuel Sandler, Johan Sandler, qui travaillait aux Nations Unies, à cette époque-là, elle était vent debout contre la logique belliciste israélienne contre l'Iran. Et il a été évoqué par des sources, on va dire, secondaire, mais que l'info soit sortie d'une certaine façon, ça laissait envisager une autre thèse, c'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir une opération de représailles derrière cette affaire Mera, que quelque part dans l'équation, il y aurait eu l'idée de, disait la source, tuer le nom de Sandler en liquidant les derniers mâles de la famille Sandler, dans un contexte où un message très clair était envoyé à une vieille famille juive ultra-orthodoxe hassidime, dans un contexte où certains hassidim, d'un point de vue extérieur à Israël, considèrent que l'existence d'Israël est par défaut un péché et qu'eux faisaient de l'agite propre, de fait des juifs extérieurs, faisaient de l'agite propre contre Israël dans un contexte où, du point de vue des serviteurs de l'État israélien, il y avait une logique où eux pouvaient considérer que leur intérêt était de mener une guerre contre l'Iran et qu'il était très mal pris de se faire tirer dans les pattes de cette façon, dans leur dos, de fait, auprès de l'ONU. Une thèse alternative, en tout cas, qui avait été évoquée et mais qui est dans un contexte de, également de diplomatie internationaliste depuis la création de la SDN en réalité, puisque à l'époque, on avait eu une diplomatie déconnectée des États dès la création de la SDN. Là aussi, c'est de la vieille expertise française, mais avec le dernier président de l'Assemblée de la SDN, qui s'appelait Richardes Johann Sandler. Et en fait, il y a d'un côté des hassidim extérieurs qui voyaient encore, là, pour le coup, en 2012, Israël comme un non-sens géopolitique parce que pour des raisons religieuses, mais de l'autre côté, on voit qu'Israël est également tiraillé par des haredim à l'intérieur, c'est-à-dire d'autres types d'ultra-religieux orthodoxes qui sont, eux, qui poussent justement à une logique belliciste, et on voit que les serviteurs de l'État israélien sont souvent pris entre deux feux, des hassidim et des haredim en Israël, des hassidim extérieurs qui du point de vue israélien, conspirent contre Israël. En tout cas, la difficile situation aujourd'hui des Israéliens en tant que État du droit international d'une part, et du point de vue des serviteurs de l'État israélien, je peux le comprendre dans un certain contexte, où se faire tirer dans le dos dans un contexte de difficile jeu diplomatique face à l'Iran pouvait être mal pris. Cette thèse semblait alternative jusqu'à la parution en 2018 d'un livre sur l'histoire des assassinats ciblés d'Israël, qui levait le voile sur pas mal de choses. Et la question, encore une fois, en droit international, n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, en tout cas, d'envisager une hypothèse ou une explication additionnelle ou en tout cas alternative à cette histoire derrière l'affaire Mera, et qu'il y ait pu être un message envoyé depuis Israël dans un contexte de lutte d'influence entre plusieurs religieux. Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve cela intéressant de le remettre en liaison avec l'affaire avec Ronan Bergman, justement, qui est très loquace sur les assassinats ciblés perpétrés par Israël. Mais là, on est vraiment dans un contexte de lutte d'influence interne. Et du point de vue des serviteurs de l'État israélien, parce qu'on voit Meir Dagan qui s'exprime dans ce livre-là, je dis, et cela, ça n'engage que moi, je dis que ça peut se comprendre du point de vue des serviteurs de l'État israélien, mais ceci, évidemment, n'engage que moi. En tout cas, on voit une nervosité quant à certaines affaires, et la connexion entre, d'un côté, le narratif Zemmour-BHL, où on a, d'un côté, les fauteurs de troubles qui incapacitent ceux qui dénoncent les troubles, et de l'autre côté, cette thèse alternative, on voit en tout cas qu'il y a des luttes d'influence qui peuvent, de mon point de vue, enrichir en tout cas, ou donner en tout cas une autre perspective. Encore une fois, en droit international, la question n'est pas de savoir si c'est juste ou si c'est injuste. Les États ont avant tout des intérêts, et on peut comprendre qu'une diplomatie parallèle ne soit pas goûtée par un État souverain dans un certain contexte diplomatique. La France a eu le même problème avec la France-Afrique dans des affaires récentes, que je ne devais pas développer pour justement rester limité dans le temps. Mais voilà, c'était un sujet d'ouverture qu'il m'avait semblé pertinent d'évoquer, et évidemment sans du tout vous compromettre. Là, mes mots n'engagent que moi. J'ai dit.
Merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Vous voulez peut-être rebondir ?
Ça me fait penser que simplement, si on pouvait punir les mensonges, ça réglerait peut-être, je sais pas, si on pouvait judiciariser les mensonges. Un homme politique qui dit des mensonges, normalement, ça serait bien qu'on puisse le sanctionner.
Complètement.
Parce que maintenant, ça devient un sport. C'est un sport.
Et sa vie citoyenne.
Et on nous manipule et on nous fait des mensonges très graves, enfin, sans compter les affaires de fous. Et les informations vont tellement vite que finalement, un mois après, on oublie qu'on a affaire à un menteur et ça revient. On a maintenant à des postes décisifs des gens qui ont fait des trucs qui normalement auraient dû les emmener en prison.
Ah, ça, c'est clair.
C'est le Bataclan.
Alors, Serge, mais je veux pas de débat. Tu as quelque chose à dire, vas-y.
Oui, moi, je...
Parce qu'en fait, on est en retard.
Bon, alors, je connais pas.
Donc, vas-y.
Mais sympathique, oui. Mais pour résumer un peu brutalement votre propos, c'est, en gros, quand même, c'est Israël qui est derrière Mera, c'est un peu ça. Bon, c'est la même chose qu'Israël est derrière le 7 octobre, voilà. Vous me permettrez de ne pas être du tout d'accord, de penser qu'effectivement, bon, il y a des relents d'antisémitisme là-dedans. Même bien entendu, je vous le dis directement dans les yeux.
Au contraire, d'un point de vue strict du sens de l'État, je pourrais le comprendre, de la même manière que je peux comprendre la doctrine israélienne de limiter les otages dans un certain contexte qui a été évoqué par certains opérateurs du renseignement israélien dans le contexte du 7 octobre, parce que des otages dont les terroristes finissent par faire du business avec, d'un point de vue militaire ou d'un point de vue du sens de l'État, je pourrais tout à fait comprendre qu'on autorise des dégâts collatéraux. Là, on n'est pas dans l'émotionnel. Moi, là, je suis réellement du côté, en tout cas, de la compréhension des serviteurs de l'État israélien dans ce contexte-là.
Je vais vous rejoindre. Je n'ai pas l'impression, dans le fond, que Netanyahou se soucie autant que ça des otages. Je pense qu'il y a, dans l'État profond israélien, s'il existe, la malheureuse considération que, finalement, ils sont cuits pour la plupart d'entre eux. Ils sont probablement, d'ailleurs, déjà morts aujourd'hui. Mmh. Et donc... évidemment, l'État, c'est le plus froid des monstres froids, et l'État israélien aussi. Maintenant, imaginez qu'ils vont monter une espèce d'opération à tiroir avec Mohamed Merah à Toulouse, etc. Ça me semble hautement improbable, pour ne pas dire autre chose.
Les Russes avaient même des traîtres russes à l'extérieur de la Russie, nous sommes d'accord.
Je dis les choses comme je le pense.
Je comprends.
Cher Olivier.
Et il faut que je réagisse à quoi ?
À la chronique, ce qui se dit là.
Moi je ne sais pas exactement qui a poussé Merah à faire ce qu'il a fait, ou si c'est un individu isolé. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de manipulation. La manipulation pourrait même venir des services secrets français, finalement. Ouais. On a eu plein de thèses très étayées, et des articles. Après, comment prouver ce qu'on raconte, ou comment voir que c'était l'État ou tel autre?
Mais ça ne peut pas être bateau et en fin de compte juste un type qui a envie d'en découdre. Est-ce que ça ne peut pas être ça?
Il a bien voyagé. Il a bien voyagé.
Oui, mais alors, il y a la question que je me pose. Pourquoi a-t-il tué 3 militaires avant de s'attaquer à l'école juive? Et que des militaires issus de la diversité. Alors tout ça, moi je pense, et d'ailleurs, puisque tu as parlé tout à l'heure de Mélenchon, moi je me rappelle très bien de Mélenchon à ce moment-là.
J'ai parlé de Mélenchon, moi.
Jean-Maxime. Mélenchon, dans un premier temps, donc il y a eu plusieurs militaires qui avaient été assassinés, et tous issus de la diversité. Donc, pour Mélenchon, c'était un mec d'extrême droite.
Oui,
et je me rappelle très bien du discours qu'il avait fait, ils ont tué nos petits, etc. Tout ça, en quelque sorte, pour dire, vous voyez, c'est le camp, Le Pen, etc. Etc. Puis alors, tout d'un coup, quand on a découvert qu'il s'était terminé, M. Mélenchon est passé aux abonnés absents. Donc, terminé, il n'a plus parlé, ça n'avait plus d'importance.
Et c'est récurrent.
Bon. Non, mais il y a des... C'est pas des loups solitaires, mais ils peuvent d'ailleurs être parfois influencés ou peut-être manipulés. Non. Mais de là, il faut imaginer le degré de risque qu'il faudrait pour conduire une opération où on met entre les mains d'un bargeau pareil des armes pour qu'il aille faire n'importe quoi dans une école et tuer des enfants. Enfin, je crois pas qu'il y ait un seul service secret au monde qui prennent de tels risques.
C'est l'essence de leur boulot.
C'est beaucoup plus simple de poser une bombe de manière anonyme dans une école dire, on revendique ça par l'État islamique et puis ça aura les mêmes effets. Donc, les gens vont à la simplicité en politique très souvent. Voilà.
Mais qui a gagné quelque chose à l'affaire Merah à la fin? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que quelqu'un a gagné quelque chose dans l'affaire?
Qui a pu tenter d'y gagner quelque chose?
C'est quand même pas lui qui a fait ce coup-là.
Y avait juste avant Christophe Barbier qui avait dit quelque chose, et ça a été supprimé ensuite. En substance, un événement endogène extérieur à la campagne qui était la seule chose qui aurait pu lui laisser une chance d'être réélu dans un certain contexte. Et c'est vrai que l'augmentation...
Mais de là, elle a provoqué quand même...
Ça a pu être une tentative d'opération
trop dangereux,
politique, une hypothèse parmi d'autres. En tout cas, ça s'est déjà vu aux États-Unis. C'est documenté du reste.
Et d'ailleurs, ce qu'a dit M. Villotte tout à l'heure prouve que c'est très risqué, puisque lui-même vient de t'expliquer qu'en opérationnel, on leur demande de les prendre vivants. Et vous me confirmez bien que vous aviez pour consigne de le prendre vivant, priorité. Ouais. Bon, alors après, évidemment, vous avez pas, on vous comprend très bien, hein, on est d'accord avec vous. Mais donc, imaginez-vous, Merah, agent secret d'une puissance étrangère ou de la France ou de
Sarkozy. Mais d'où viennent...
Et puis finalement, qui est pris vivant,
toutes ces histoires dont on pense que Mohamed Merah serait agent ou pas agent, ou loup solitaire, enfin, toutes ces thèses?
En tout cas, nous, on nous a accusés de trucs.
par exemple, d'avoir fait exprès de le tuer, bon, ben, ça ne tient pas du tout la route. Puisque...
Qui vous a accusé?
Bah, moi, j'ai entendu.
L'opinion publique.
Voilà, non, les médias.
Les médias
bah, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est venu jusqu'à mais nos oreilles.
L'opinion publique, non, mais... on n'avait rien à faire, même si...
Nous, on n'a pas pris au sérieux ça du tout, parce que 33 heures, on a mis 33 heures. 4 blessés parmi nous. 33 heures
oui, vous auriez pour pu, tuer vous auriez quelqu'un pu le qui dégommer n'a pas d'otage.
Ah mais non mais en 10 minutes voilà. Le temps d'aller chercher un RPG-7.
Oui.
Non voilà, donc c'est pas du tout notre travail. Oui. Et on n'a jamais reçu une consigne comme ça parce que ça aurait été plus facile, mais c'est pas du tout le travail, on n'a pas besoin du raid pour faire ça. Voilà,
si mais pourquoi ça a été si long?
Parce qu'il vient de
prendre vivant,
on fait tout pour parce que voilà, attraper parce qu'il faut les gens vivants. Oui, et puis c'est pas facile.
Et donc ça évente quand même la théorie du complot.
On aurait, nous, préféré.
Dans ce cas-là, on balance une bombe et puis c'est terminé, il est mort, Mera. Quoi. Voilà.
Une grenade.
Ouais, voilà.
Mais il avait peut-être des choses à dire. On ne tue pas, on ne coupe pas une langue qui peut encore parler, c'est la base.
Mais qu'est-ce qu'elle avait à dire?
Il a été interrogé, il a été suivi par, j'ai dit tout à l'heure, un officier américain, un officier pakistanais.
C'est quoi les sources?
Il a beaucoup parlé parce que pendant la négociation, il a parlé de voitures.
Qu'est-ce qu'il a dit, Mohamed Merah, quand il a parlé?
Il a tout dit.
Il voulait parler à
son. Vous l'avez entendu savoir, vous pouvez lui parler?
Alors, moi non. Moi, j'étais à l'hôpital. Mais toute la colonne d'assaut, pendant... Alors, je crois qu'il a parlé jusqu'à... Je ne sais plus, alors là, c'est l'heure. Mais enfin, il a tout raconté parce que... il a raconté au négociateur, mais ça ne se faisait pas par téléphone. Donc, tout le monde a entendu. Comment? C'est lui qui dit où sont les voitures, parce que nous, on pensait qu'il avait qu'une moto. Le fameux scooter, voilà, mais il avait deux autres véhicules avec des armes dedans. En fait, il a tout raconté. Voilà. Puis après, ce qu'il a dit a été confirmé par le fait que après on a trouvé ces vidéos, quoi. Parce que tout ce qu'il a fait était filmé. Non seulement les attentats, mais aussi les préparations d'attentats. Et voilà, avant la maternelle, avant l'école, il avait ciblé deux autres militaires dans un appartement. Mais finalement, les militaires, par chance, ne sont pas rentrés chez eux, etc.
En tout cas, merci beaucoup, cher Jean-Maxime. Pour cette chronique qui a fait débattre,
c'est bien de des choses, en fait.
Réagir.
C'est important de débattre. C'est important de dire et de débattre. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Au moins, on se dit les choses.
On n'est pas tous les mêmes, donc on est là aussi pour.
Et puis chacun peut avoir sa théorie. Moi, je.
Il peut y avoir également des
même des théories qui peuvent être fausses aussi, quand même.
J'ai l'impression que Piacentini est peut-être dans le coup.
C'est encore ça.
C'est possible.
Le FLNC n'est-il pas à l'origine de tout ça?
C'est fort possible.
Le Béra.
Il faut toujours des boucles.
En général, ils ont tendance à calmer les djihadistes. Le FLNC.
Ah, oui, c'est vrai qu'à
ça... vraiment les calmer. Hein. On peut te dire que là où passe le FLNC, je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y a eu l'affaire de Cisco, du message du FLNC à l'endroit de Daesh. Hein.
Ah oui.
Ouais.
Le FLNC avait publié un ultimatum à Daesh.
Merci à vous, chers messieurs. On va passer là
c'est
à
pas
l'actualité.
Pour défendre le FLNC, hein, comprenez bien.
Merci, cher Olivier. On va passer à l'actualité. Mais avant ça, les petites annonces.
Économie. Politique. Expertise. En version papier, votre revue mensuelle Géopolitique Profonde est disponible avec des auteurs experts. Frank Pengam, spécialiste en finances décentralisées. Marc-Gabriel Draghi, juriste. Andy Busaglia, conseiller en gestion de patrimoine. Cliquez sous la vidéo pour avoir accès à votre revue.
Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, plus de 4000 avec le compte X. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde, spécial Bitcoin. Alors, quel est le premier top tendance? Alors, je l'ai dit tout à l'heure. C'est Moscou.
Bah
d'après
oui.
Les informations de Xavier Moreau qui est sur place, il parle de 100 morts.
C'est possible.
Oui, mais qui serait à l'origine de l'attentat? Voilà, alors, parce qu'on va
on ne sait pas.
Parler.
Les réseaux Gladio de l'OTAN, derrière l'Ukraine, évidemment.
Ce sera l'Ukraine?
Derrière l'Ukraine, j'ai dit les réseaux Gladio de l'OTAN, derrière l'Ukraine,
évidemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir l'Ukraine, d'après toi, tiens, cher
bah, moi, je ne sais pas, tout est possible. Hein. Bon. Je pense que si j'étais un responsable de l'OTAN, je réfléchirais à deux fois avant de faire quelque chose qui risque d'avoir un effet inverse énorme et de priver de toute légitimité l'aide qu'on pourrait apporter à l'Ukraine. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Ça peut être n'importe qui, des Tchétchènes, mais oui, mais enfin bon, il y en a aussi qui sont méchants. Hein. C'était pas l'OTAN comme à l'origine, justement, oui. De la prise d'otage dans le théâtre, bien là sûr, où il y avait eu 100 morts, 200 morts. Ça avait été terrible. Bon, donc,
Mais ça signifie quoi? Ça signifie que même à Moscou, qui est quand même une ville safe par rapport à Paris, il peut y avoir aussi ce type d'attentat.
Mais la preuve,
partout.
Ça peut être... dire, aucune ville n'est épargnée, en fait.
Bah, bien sûr.
Cher Marc.
Ouais, j'ai pas d'avis là-dessus, mais en effet, je vois pas... Nous, après 2015, on avait même peur que ça se produisent encore sur une... Ouais. Parce qu'en fait, jusque-là, on avait même vu des gens, même si, par exemple, Mohamed Merah a été préparé, on l'a vu, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il s'était entraîné sur les jeux vidéo ou au paintball. Nous, on a vu ses performances au tir. Voilà, c'était quelqu'un d'entraîné. Mais... n'empêche que c'était quand même... ils ont tous à peu près le même profil, les frères Kouachi, dans le Thalys, etc. C'était quand même des gens, certes, entraînés, mais ce n'était pas des vraies forces spéciales. Non, moi, j'ai vu des vidéos de forces spéciales à l'époque Daesh. Alors, certes, c'est de la propagande politique, mais enfin, il y avait des vrais professionnels. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, si jamais on récupère ça sur le territoire, ça va faire mal.
Ouais. Moi, ce que ça m'inspire, cette affaire de Moscou, si vous voulez... Hein. C'est que vous savez, on est dans un contexte de plus en plus tendu au niveau international qui pourrait mener vers la guerre. Et pas plus tard que la semaine dernière sur ce plateau, quand on a parlé de Macron qui parlait d'envoyer des troupes en Russie, j'ai dit qu'il faisait de nous des cibles de Poutine, et de la France la cible de Poutine, et qu'une simple manipulation avec un attentat fomenté justement en dessous pouvait finalement déclencher une guerre ou faire n'importe quoi. Alors moi... J'ai quand même l'impression que le contexte international global, cet attentat pourrait s'inscrire dans un contexte international de plus en plus tendu et, je dirais, être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, un petit peu comme l'attentat de Sarajevo a mis le feu aux poudres en 1914. J'ai vraiment l'impression, hélas, que certains essayent, je dirais, de déclencher un conflit mondial. Et c'est là où l'attitude d'un président comme Macron est vraiment dommageable, parce que j'ai quand même l'impression que tout ce qu'il dit ne fait qu'alimenter les tensions, ne fait qu'alimenter une marche vers la guerre qui, de fil en aiguille, on pensait improbable, finit aujourd'hui par devenir probable. Et j'ai peur, malheureusement, que ce type d'événement ne soit là aussi, volontaire ou pas, quelque chose qui pourrait nous mener au fond de l'abîme. Voilà surtout ce qui me fait peur, parce que là, au stade où on en est, on ne peut pas...
Oui, alors, je pense qu'on véritablement, on n'en sait rien. Cela dit, quand on voit l'attitude des Russes comme des Ukrainiens, quand ils envoient, par exemple, des drones pour faire, ou quand ils bombardent, ils ont tendance à vouloir montrer leur force, d'accord ?
Bien sûr.
À visage découvert. C'est-à-dire que l'intérêt de Zelensky, à la limite, c'est de pouvoir afficher qu'il est capable de faire trembler Moscou. C'est pas d'envoyer des mecs dans un théâtre pour tirer dans le tas. Mais parce que là, il y a de l'emmener.
Non. C'est la même chose.
Il enverra
les réseaux gladiaux, c'est documenté, les opérations de terreur, ça sert à ça. Quand vous ne pouvez pas détruire...
Mais d'où il enverra un missile aussi.
Quand vous êtes en train de perdre une guerre, il est temps justement de montrer, vous pouvez quand même frapper par terreur, mais c'est l'arme du pauvre dans un contexte où il est en train de se faire rétamer sur le champ de bataille. Enfin, malgré qu'il y ait tout le temps derrière. Pour moi, c'est une...
Je crois qu'on ne peut rien exclure, mais bon, on ne peut
rien dire. Là, on spécule.
Je n'ai aucun doute sur la potentialité sérieuse de ce que je viens d'évoquer.
Ah non, mais ça, c'est potentiellement
documenté à partir de...
En tout cas, là, on spécule plus qu'on donne de l'information.
Forcément, on a des informations.
Non, c'est souvent je raisonne par analogie.
Oui, oui, il faut se demander à qui profitent les crimes, et les crimes terroristes profitent rarement aux terroristes parce qu'ils finissent très généralement par être écrasés par un mouvement de réaction contre la
terreur. Il n'y a pas de génération spontanée du terrorisme international, c'est ce que disent les véritables initiés. Point.
Bon, très bien. Deuxième top tweet... CETA, tiens, le CETA, c'est Ah bon, tu veux parler, vas-y, parle. Allez. T'as envie, tu lèves la main, vas-y.
Ben oui, parce que je parle de ce traité.
De ce traité avec les Canadiens.
Depuis des années, alors, je voudrais dire, donc ce traité, donc, je ne sais pas si les gens savent tous de quoi il s'agit, le traité de libre-échange avec le Canada.
Explique-nous, toi, qu'économiste.
Ben, c'est un traité de libre-échange avec le Canada, qui est d'ailleurs en négociation depuis un moment, puisque j'avais fait une conférence au Parlement européen en 2018, et qu'on en parlait déjà. Et qui était un petit peu, je dirais, le traité préparatoire au TAFTA qui est avec les États-Unis, qui sera d'une ampleur bien pire encore, qui pour le moment est suspendu. Bien. Le traité de libre-échange CETA est une véritable menace pour notre agriculture, mais même pour certains aspects de notre industrie, et c'est toujours l'extension du libre-échangisme dont on veut nous faire croire qu'il va nous profiter, alors que la Russie, l'économie russe, est en train de prouver que ce n'est pas le cas, puisque l'économie russe sanctionnée se réindustrialise et a appris à fabriquer tout un tas de choses qu'elle importait jusqu'à présent. Et l'économie russe est une des économies qui se porte le mieux aujourd'hui dans le monde, tout en étant sanctionnée et en étant donc freinée dans son libre-échangisme. Hier soir, je regardais un débat sur la chaîne télé France Info, que j'appelle souvent France Intox, mais écoutez, j'étais atterré. Mais écoutez, les bras m'en sont tombés.
Il se fait du mal, hein, quand même. Écoutez,
oui, regardez le débat à France Info.
Je non, mais c'est la nostalgie. On a toujours des petites tendances à dommage. En plus, oh. Je sais pas.
Alors, on parlera.
Oui,
je parlera.
Je sais pas.
Antenne.
Oui, j'aurais mieux fait de regarder, je sais pas, ce qu'il y avait, un jeu débile sur notre chaîne. C'était moins con.
Bon. Non, mais c'était de la nostalgie. Il y a 30 ans, sur France Info, t'avais de l'information. Hein.
Ah, il y a 30 ans, oui. Voilà.
Oui, mais là, mais il n'était pas né.
Alors, il y avait une espèce de blonde qui ressemble à la blonde ukrainienne de LCI. Oui. N'est-ce pas? Je me demande si ce n'est pas la même qu'on a mis là. Qui est directrice de Libération, je crois, ou rédacteur en chef de Libération. Et qui rigolait, qui a dit, ah oui, oh, ben, de toute façon, ce n'est pas bien grave si les sénateurs ont voté contre. Parce que, de toute façon, il va continuer de façon tacite, même si les sénateurs l'ont rejeté. Mmh. Et alors, il y avait Jean-Marie Colombani, qui est du même village que moi, que je connais bien, et qui trouvait que ce traité CETA était merveilleux pour l'économie, et qu'on était en train de se ruiner à pas le signer. Bon, et ils étaient quatre sur le plateau, et les quatre disaient la même chose. C'est pas les débats GPTV où on se...
Ouais.
Non, là, les quatre étaient d'accord. Le traité CETA, c'est merveilleux. Bon, c'est moi, je vous le dis, le traité CETA, caca. Voilà. Oh là. Voilà. Désolé. Voilà.
Ne passons pas à côté
c'est
de
ce
voilà,
le
ou qu'un Canada, alors voilà.
Qu'est-ce
voilà.
que vous en pensez, tiens, des traités CETA non. avec un Canadien?
Moi, je suis pas dans mon cercle de confort. Hein. Non, je sais pas.
Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que sur le même plateau, les quatre sont d'accord pour dire la même chose alors que les sénateurs
ont voté contre ? C'est la démocratie, monsieur.
Mais c'est pas la démocratie, je suis désolé. Les sénateurs républicains ont voté contre. Donc les républicains, c'est pas des extrémistes quand même. C'est pas des gens qui veulent remettre en cause le système. Ils disent que non. C'est pas le Rassemblement national. C'est pas... Eux ont dit non. Donc,
ça t'énerve, ça ?
Qu'ils aient dit non, non.
Non, non, le fait que les quatre étaient du même avis.
Mais je comprends pas comment c'est possible.
Tout le temps comme ça.
Mais je comprends même pas comment, sur un plateau de quatre personnes, pour un traité CETA qui est nocif, et il y a mille moyens de le démontrer, eh bien, il n'y en est pas un pour trouver que, bon, ben finalement, est-ce que, bon... Il n'y a même pas la mise en doute, le traité CETA, c'est merveilleux. Les Canadiens vont y perdre. En fait, ils ont signé le traité parce que les Canadiens sont con-cons et qu'ils veulent nous laisser de l'argent et faire un marché de dupes. Alors, c'est plus gagnant-gagnant, c'est eux sont perdants et nous gagnons.
Mais qui peut croire ça, Serge ?
Bon, je pense qu'effectivement, il y a une espèce de doctrine... qui domine en Europe, qui passe souvent par une insuffisante protection des intérêts de l'Europe. Ils ont une espèce de foi naïve dans les négociations commerciales. Alors, comment ça va évoluer ? Bon, j'en sais trop rien, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de naïveté dans les...
Je suis pas sûr, moi.
Donc, quand même, parce si. Que... Et puis, deuxièmement, alors, je voudrais dire, pour recoller au sujet...
Et...
Bon, pour conclure sur le sujet, on pardonnera à la boutade, mais je peux vous dire simplement que si jamais un jour, il y a une bande de terroristes qui s'empare de la Commission européenne à Bruxelles, eh ben, faut surtout pas aller envoyer le REC.
Oui, c'est ça.
Oui. Pour aller...
Pour rester chez vous.
Mais il y avait eu un attentat à Bruxelles, à côté de la Commission européenne, et là, il y avait même une Italienne qui était à l'époque responsable de la diplomatie diplomatie de l'UE qui pleurait, elle était là en train de pleurer.
Ah oui.
Oui, oui, oui.
Que d'émotions.
Voilà, que d'émotions. C'est marrant non, quand il y a des attentats ailleurs, non, c'est que vous n'aurez pas ma laine.
Mais là, quand les gens ne sont pas directement. Le jour où il y aura un attentat islamiste dans les bureaux de la Commission
on le souhaite pas, évidemment.
Ça n'arrivera pas.
C'est juste un imaginaire.
Mais évidemment, mais on ne le souhaite pas. Mais je dis que, en fait, et tout le monde le sait, tant qu'on n'a pas vécu dans sa chair directement un problème, on ne le comprend pas.
Et surtout eux.
Voilà.
Attends, on laisse parler.
Mais on s'y est entraîné. Hein. Il y a un groupe d'élite. Il s'appelait Diane. Maintenant, je me rappelle plus comment il s'appelle aujourd'hui. Mais voilà, on a un organisme qui s'appelle Atlas, qui organise des entraînements à l'échelle européenne. Et cette période-là, c'est le groupe belge qui avait réussi à avoir un bon budget et on s'est entraîné sur les murs.
Voilà.
Sur les portes, sur les différents murs de
la commission.
Oui.
Ah ouais.
Parce que c'est des murs modernes.
C'est intéressant.
mais ce que je voulais dire, c'est l'histoire de confiance. C'est-à-dire qu'on en revient à l'histoire de confiance. On a toujours peur que ça ne soit pas dans les décisions des gens sur les plateaux, qu'ils ne raisonnent pas en termes d'intérêt collectif. Mais qui parle d'intérêt personnel quant à l'argent qu'ils peuvent défendre tirer.
Moi, je vais vous dire, je vais être très clair. Oui. Ils défendent les intérêts des multinationales.
Évidemment.
Voilà.
Et c'est donc pas
c'est clair. Collectif. C'est pas naïf. C'est ils défendent les intérêts.
Conclusion, cher Jean-Maxime.
Tant les médias que la Commission européenne travaillent pour les firmes multinationales qui sont les opérateurs qui vont se goinfrer sur la famine au sein de l'abondance des deux côtés. C'est vieux comme le libre-échange dit britannique, c'est une évolution naturelle.
Conclusion courte parce qu'on est vraiment tard.
J'ai compris, voilà, j'ai dit. Et on ne verra jamais d'attentats gladiaux type à la Commission de Bruxelles. C'est évident parce que les institutions mondialistes ne sont jamais ciblées, c'est aussi simple que ça.
Ah, ça c'est vrai.
Non, c'est un hasard.
Ça c'est vrai.
C'est un hasard.
Je suis totalement d'accord avec toi. Troisième top tweet, et on va faire assez court.
Voilà.
20 milliards. En fin de compte, c'est 20 milliards que Bruno Le Maire cherche et pas 10 milliards. Donc voilà, ça a doublé en une semaine.
Mais il n'y a besoin ni de 10, ni de 20, il y a besoin de 150 milliards. C'est le montant du déficit français.
150 milliards
C'est le montant du déficit.
Ou c'est ce qu'on a filé aux Ukrainiens hein.
Oui, je ne sais plus.
Non, la France n'a pas donné 150 milliards.
Il y a deux choses différentes.
Écoutez, excusez-moi si je prends la parole, mais comme je vais devoir vous quitter plus tôt, et que c'est un peu le sujet justement que j'attendais, je trouve que c'est quand même extraordinaire que M. Le Maire, on en a parlé tout à l'heure.
Pas à 5 minutes près, vas-y, reste un peu.
Mais j'ai des choses à dire aussi là-dessus.
Ben, voilà, mais je vais t'écouter, mon cher ami. Mmh. Tu sais bien que je prends toujours ce que tu dis avec un grand intérêt.
Non, mais vas-y, développe, justement.
Vas-y, développe.
C'est que monsieur le maire vienne sur un plateau découvrir l'ampleur du déficit. Alors, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, il y avait un article dans France Info pour nous expliquer que.
Putain, t'arrêtes pas de lire France Info, c'est quoi c'est, ben oui, ta nouvelle Bible hein.
C'est ma référence.
Ah, bah voilà.
C'est ma référence. C'est la contre.
On ne peut plus l'inviter. Hein.
c'est France bien. Info.
Non, mais je te dis que c'est de la nostalgie.
Bien. Oui, si on veut. Je préfère Radio. Pour la nostalgie, j'écoute Radio Nostalgie, c'est mieux.
Voilà.
La répartie est très bonne.
Il y a Dalida.
Mais vaut mieux écoute plutôt Dalida.
Allez.
Vas-y, continue.
Alors, donc, il vient nous expliquer que les comptes sont dans un état catastrophique. Qui en est responsable? C'est lui, ça fait 7 ans qu'il est ministre des Finances. Aujourd'hui, dans France Info, il y a un article pour nous expliquer que les intérêts de la dette, la France paye actuellement 38 milliards d'euros. Il y a 2 ans, elle en payait 17, ça pourrait monter à 74. Pourquoi? Parce que dans un mois, les agences de notation vont réévaluer, ou plutôt dévaluer, la note de la France. Et que nous allons.
On le dit, ça se fait pas.
Ça se fait. Ah bon?
Tôt ou tard?
Ça se fait pas. Ça s'est déjà fait, ouais. Et ça va se refaire. Et là, aujourd'hui, mon cher Mike, nous avons un double effet. C'est-à-dire qu'il y a une crise, une conjoncture, je veux bien, mais il y a la France qui est dans une situation particulière d'être le plus gros déficit de l'Union européenne. Le pays qui a le plus, qui s'endette le plus actuellement, 300 milliards cette année, avec en plus un gouvernement
avec
qui
l'Italie. N'a...
Non, l'Italie s'endette moins que la France, je suis désolé. C'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est faux. C'est toujours un truc.
C'est l'équilibre budgétaire, les Italiens.
Voilà.
Ils ont une grosse
Mais je saute pas au plafond, je te donne des chiffres réels. La France est dans une situation catastrophique, entre autres à cause de M. Macron, qui nous amène à la faillite. Il va avoir la sanction, le jugement des experts internationaux dans un mois, à 2 mois des élections européennes. Macron est en train de nous amener à la faillite. Comme je le dis depuis des années, l'histoire de la facture du taux d'intérêt qui monte, j'en ai parlé il y a trois ans, en 2021, j'avais expliqué ça, et Macron a l'air de découvrir, c'est ça qui me paraît étonnant, Macron
conclues, et Le Maire. Et parce que vraiment, on a trois minutes.
Vas-y, notre vas-y. Pays est au bord du gouffre, voilà, c'est clair.
Bon, tu l'as dit.
Okay. Mené par des escrocs.
Moi, je vais simplement poursuivre le raisonnement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un très fort risque de dégradation de la dette avec une augmentation des taux d'intérêt. Ils sont dans une nasse parce qu'actuellement, l'économie est presque à l'arrêt. Il risque d'y avoir une récession en 2024.
Bien sûr.
Le budget va être absolument impossible dans ces conditions à voter. On va se retrouver avec un déficit qui va atteindre à nouveau 6-7%. Et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Macron va devoir soit spolier les épargnants, dire bon voilà, emprunt forcé de 20%.
Il y aura des hausses d'impôts ?
Mais des hausses d'impôts ou des emprunts forcés. Ou alors, qu'est-ce qu'il va. De toute façon, il devra prendre des mesures, au moins les annoncer, et il va aller au Parlement avec un 49-3 pour essayer de les faire adopter. Et là, je crois qu'on est vraiment dans la nasse aujourd'hui. Il est possible que le Parlement vote une motion de censure parce que les députés vont quand même avoir des difficultés à admettre, même passivement avec le 49-3, des mesures. En fait, qui vont mordre l'électorat et ensuite
on ne peut pas s'en sortir dans le système où on est.
Dissolution, absence de majorité au Parlement, bordel, et là le début de la fin pour le système.
Cher Marc, qu'est-ce que vous pensez là de l'état du pays quand vous entendez voilà, des économistes nous dire ce qui se passe, le maire qui nous dit parle de 20 milliards.
Moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je savais ouvrir les portes maintenant, ça.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, ce que je reconnais, c'est que, voilà, on parlait tout à l'heure que les mensonges ne sont pas sanctionnés, les erreurs ne sont pas sanctionnées. Moi, je fais un métier où, quand tu fais une erreur, tu es sanctionné.
Ah oui, bah, durement, hein, ça, c'est clair. Hein. Ouais, ah là, ils ne sont pas sanctionnés. Mais qui peut croire que le maire découvre la situation alors que moi, je l'ai prévu 3 ans avant ? C'est clair. Je te rappelle un débat qu'on avait eu avec un autre économiste que je ne citais pas, peu importe, on n'est pas là pour faire des trucs. Il nous expliquait que les OAT françaises vendaient très bien
et
que
tant que ça, tout irait bien.
Et il avait même dit que l'Espagne et l'Italie tomberont avant. Moi, je te dis, je dis et je maintiens, la France est le pays dont l'économie est la plus en ruine de tout l'Occident. Voilà.
Je vais prendre juste la suite de ta phrase.
Une minute, s'il te plaît.
Je vais prendre juste la suite de ta phrase. La France est en effet le premier pays qui va tomber parce que c'est le premier pays ciblé parce que historiquement le moins docile. Du point de vue justement du mondialisme à tous les niveaux. Et là, en effet, absolument tout a été fait pour justement faire s'aggraver la pression, la surpression. Et on voit vraiment, parce que c'était là pour le coup notre thème de l'émission de ce soir, on voit la différence entre l'abnégation des opérationnels et les magouilles qui se font par-dessus ou de toutes les façons possibles.
Bien sûr.
Et donc pour résumer cette émission par cette phrase justement de la Rome antique, mais également de l'histoire de France, dans le contexte de guerre d'Algérie, que Rome prenne garde à la colère des légions. Voilà.
Merci.
Je pense que ça serait une belle conclusion.
Belle conclusion, merci beaucoup. Merci à vous, vous étiez 5348 à nous regarder en direct, vraiment merci à vous. Voilà, commandez ce livre, moi je me suis régalé, vraiment. Merci cher Marc, je me suis vraiment régalé. Pourtant c'est un livre épais, vous en avez pour votre argent, mais je l'ai lu très vite. Voilà. Et est-ce que vous ferez des dédicaces bientôt ? Ah, je crois qu'en plus il sera en poche, en version poche.
Oui, en automne, il va sortir en poche, oui.
Attends, ne pars pas, allez, reste ici 3 minutes. Reste ici 3 minutes, ne pars pas, allez, laisse...
Simplement, il a été publié au départ à 15 000 exemplaires, ensuite à 8 000, et là, on refait une réédition.
Donc, en poche...
Et après, en poche, à l'automne.
Bientôt, une dédicace.
Non, c'est pas prévu, mais j'en fais souvent. J'étais ce week-end au salon à Cherbourg et je signe encore des...
Et vous êtes conférencier aussi, bientôt peut-être une conférence ?
Oui, quand je fais des conférences, eh bien, j'amène les bouquins et de temps en temps...
Où est-ce qu'on peut trouver ce livre ?
Partout encore, on peut le commander dans toutes les librairies. Comme il est sorti en septembre, il y a plus d'un an, il est plus vraiment dans les rayons, mais il est en commande partout, il continue à se vendre puisqu'il le republie tout de suite.
Merci beaucoup, cher Marc.
Merci beaucoup.
Serge, donc évidemment, t'as le livre là qui va sortir aux éditions de Passy très bientôt. Comment il s'appelle ?
Le sabre et l'esprit.
Voilà, le sabre et l'esprit. Lundi, je te mets en face de Pierre Hillard en débat. Donc, tu vas débattre contre lui. Je sens que ça va être très chaud et très animé.
On verra.
T'auras envie de...
Je le connais pas. Donc.
Tu vas venir avec tes gants. T'as un peu lu son livre ou pas ?
À peine.
À peine. Mais bon, je pense que tu vas prendre des gants de boxe. Ça va être...
Mais je sais pas c'est quoi la feuille de route. Il faut être gentil.
Non, tu fais ce que tu veux. Tu veux être méchant, tu es méchant. J'aime quand tu es méchant.
Moi, je suis pas spécialement gentil, donc bon.
Bon, bah très bien. J'aime quand tu es méchant.
Comment c'est gentil, ça sera. Voilà. Et après...
Merci beaucoup, Serge. Olivier Piacentini.
Moi, je suis gentil ou méchant?
Bah, Olivier, n'ayez plus peur. L'Occident renaîtra.
Selon Bruno Le Maire, tu es.
S'il vous plaît. Donc ton livre, il sort bientôt. Quand est-ce qu'il sort ?
9 avril.
Le 9 avril. Donc n'ayez plus peur, l'Occident renaîtra comme le phénix. Bah, évidemment, tu viendras ici le présenter.
Ben oui, si tu veux.
Merci à toi, cher Olivier.
Merci
et enfin,
à vous tous.
Jean-Maxime Corneille, éditorialiste. T'as écrit ce mois-ci ?
Sur les idéologies et les réseaux d'influence. On voit souvent un petit relâchement de la discipline en fin d'émission quand même. Hein. Mais il faut nous.
Ouais, Olivier, comme toujours, hein, évidemment, là, il part. Alors, bref.
Olivier, il est corse, il
bravo.
A des excuses. Voilà.
Ouais, bravo, Olivier. Hein. Bon, on te réinvitera quand même, bon, histoire de. Allez, passez une excellente soirée. On se voit lundi pour le grand débat. Pierre Hillard, Serge Federbuch. Passez un bon week-end. Allez, merci. Salut, ciao.